crois que quand tu es un acteur hollywoodien et que ton nom se termine en O, il y a des chances que tu deviennes un des meilleurs de ta génération.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best downtown, downtown.
Bienvenue à tous dans le meilleur podcast, l'émission où on part des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Sirius.
Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de cinéma et de performances d'acteurs et d'actrices en tout genre. Je m'appelle Tom.
Et on est bien entouré, Tom, parce que c'est un podcast qu'on a galéré à faire. Genre, il y avait pas mal de trucs, de rendez-vous manqués, de machins, de...
De mauvaises heures de rec, on peut le dire. Je le prends pour moi.
On est en compagnie de Nicolas Bernot.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que Nicolas, tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas?
Donc je m'appelle Nicolas Bernot, je suis acteur, j'écris de temps en temps, je réalise de temps en temps et je suis content d'être là.
Ça fait plaisir.
C'est
ça
beau.
Plaisir.
C'est touchant.
Ah, une voix que j'ai entendue,
oui,
Tom.
Une seconde voix qui s'élève dans la brume.
Est-ce que c'est de la schizophrénie? On ne sait pas.
Non, il me semble que c'est Dedo, Tom.
Il me semble effectivement que c'est Dedo. Salut Dedo, merci d'être là.
Bonjour, merci à vous d'être là. Alors faut que je me présente, faut que je le fasse protocolaire aussi. Donc bonjour, je suis Dedo, je suis humoriste, comédien, auteur. Je tire un peu à l'arc, mais c'est pas un de mes points forts. Et après, pour plus de détails, des affinités vont venir par la suite de l'émission.
J'ai hâte. J'ai une mini anecdote sur Dedo. Quand j'étais plus jeune, genre, je sais pas, je dois avoir 19-20 ans, je vivais chez ma daronne et tout.
Il y a 2 ans, quoi.
Ouais, ce que j'ai.
Ah bon.
Non, mais en gros, je t'avais découvert avec le Jamel Comedy Club. Et genre, je matais ton sketch en boucle, quoi. Genre, je l'avais montré à ma mère, je fais regarde, non, c'est trop marrant et tout, machin.
Mais après, il faut la finalité de l'histoire, parce que si tu l'as maté en boucle en disant, mais t'as vu, putain, j'ai tellement envie de le tuer.
Ouais. Je trouvais ça trop drôle.
J'ai commis mon premier meurtre grâce à toi.
Merci.
Ça trop marrant et tout, et voilà, je suis du coup super content.
Ah bah, super content de connaître cette anecdote. Un peu flippé, mais content.
Désolé, je veux pas me flipper.
Moi, je suis très content, mais ça me fait toujours rire quand on dit, moi, je t'avais découvert avec le Jamel Comedy Club, parce que j'adorerais un jour qu'on dise, moi, je t'avais découvert avec les pattes. Tu faisais très bien les pattes.
Et depuis, vraiment, depuis
ta carrière, c'est un peu freiné.
Tom, est-ce que t'as pas des petites choses à nous raconter? Est-ce que t'as pas un édito? Est-ce que c'est pas l'heure de l'éditum?
Il y a un éditum.
Il y a un jeu de mots et un édito.
Oh là là.
Ouais.
Eh bah écoute, avec plaisir.
Bah écoute, tu fais bien de me demander, Cyrus, parce que si justement, je pense qu'il y a bien pire qu'être nominé aux Oscars et pas gagner de prix finalement. Alors oui, il y a pire, c'est vivre dans un pays en guerre ou porter des crocs, mais c'est pas le sujet de l'émission. Non, il y a être nominé aux Oscars, perdre et avoir écrit au cas où son discours de remerciement. Hein, pour rien. Je sais pas si vous avez déjà pensé au niveau d'extrême tristesse du gars qui a préparé son discours, qui gagne pas et qui le retrouve dans le fond de sa poche au moment de se coucher.
J'ai déjà pensé à ça.
Le soir.
C'est horrible.
Tu dois te sentir comme une grosse merde. Hein. Je pense que même ton reflet dans le miroir détourne son regard. Et en plus, c'est sûr que quand t'as pris ta nomination, t'as forcément fait le malin. T'as dû passer plein de coups de fil, genre « Ouais, salut Daniel, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que tu mets un S, toi, à mille merci ?»« Ouais, parce que je suis en train d'écrire mon discours de remerciement pour les Oscars, en fait. » »« Ouais, je suis nommé aux Oscars, ouais, je t'avais pas dit. » vas-y, ose rappeler le mec après pour lui proposer un five. Non, mais il y a un élément essentiel, par contre, qu'on oublie trop souvent de citer dans les discours de remerciement aux Oscars. Pour moi, c'est les miroirs. Je ne sais pas si vous voyez à peu près le nombre d'acteurs qui se sont entraînés devant leur miroir style De Niro dans Taxi Driver. C'est assez ouf. Et miroir, c'est vraiment pas un métier facile. Déjà, tu dois beaucoup réfléchir.
Je l'ai.
Wow.
Je l'ai. Double sens.
J'ai perdu un cil, moi.
J'ai tout donné sur celle-là.
Moi, j'aime bien.
Après,
j'aime
ça va être nul à chier le reste.
Moi, j'étais en train d'imaginer De Niro face au miroir à dire... C'est moi que tu remercies? Non, c'est moi que tu remercies. Voilà.
Et puis ensuite, quand t'es miroir, tu sais jamais où tu vas finir accroché. Hein. Tu peux devenir un miroir géant installé au plafond de la chambre de Didier Véro, couple de libertins sexagénaires du Cap d'Agde. Ou alors tu peux finir dans la salle de bain de Nicolas Dupont-Aignan et voir chaque matin Nicolas Dupont-Aignan qui te raconte à quoi ressemblerait la France s'il était président. Voilà, j'ai un frisson, excusez-moi.
Ouais, ça me ferait marrer d'avoir Dupont-Aignan qui apparaît dans mon miroir quand je le demande.
Tous les matins?
Ouais, ça me ferait rigoler.
C'est un Candyman moderne, quoi.
Horrible.
Je le dis 5 fois, il est dans ton salon.
Beaucoup plus flippant que l'original.
Le Frexit! Ah ouais, mais...
Et en plus, t'as aucune reconnaissance quand t'es un miroir. Les gens ne te regardent pas pour ce que tu es, mais pour l'image que tu reflètes, un peu comme une Miss France. Et pire, comme les gens sont persuadés que te briser porte malheur, jamais personne va te faire de câlin. Hein, aucun signe d'affection. Du coup, chers éditeurs, je compte sur vous pour changer le monde dès aujourd'hui. S'il vous plaît, courez dans votre salle de bain, faites un immense câlin à votre miroir ou roulez-lui une pelle comme vous voulez, vous ferez un truc bien. Mais bon, tout ça, c'est peut-être que mon point de vue sur le métier d'acteur et je voulais vous demander le vôtre, chers invités. Dedo, si tu gagnais un Oscar, tu remercierais qui dans ton discours?
Alors, avant d'en arriver là, dans ton édito, à un moment, tu dis que le mec appelle un pote pour lui demander s'il y a un S à mille merci, mais comme il le dit à l'oral,
je me suis dit aussi.
Peu, quoi.
Exactement.
Ouais. Mais j'aime beaucoup cette théorie, malgré tout, d'appeler quelqu'un juste
pour
avoir.
Du coup, je me demandais si c'était la vanne.
L'authenticité de conjugaison.
Est-ce que c'est une double vanne?
Mille merci, c'était des merci.
Ah oui.
Je vais dire. Pas le vous avez cru merci?
Oui.
Mille merci, les fruits en Patagonie.
Ah, les merci. Ben oui, bien sûr, les petits merci.
Oui, exactement.
Ah, ouais, c'est vrai qu'on l'exporte pas.
Je saigne du nez, je crois.
Désolé, ouais, c'était.
Et moi, je trouve que c'est beau d'être un miroir parce que, genre, tu peux casser et t'es multiple. Tu deviens multiple.
Waouh.
Oh là là. Mais ça s'appelle, poésie autour d'un feu, ce podcast. Ouais. Quoi. Ça manque de. Pour l'instant, la poésie, ça va, ça manque de flamme. Mais...
Nourris-moi l'âme.
Qui je remercierais? Eh bien, l'âme, effectivement.
Ouais,
la chanteuse.
Le double sens, effectivement. La chanteuse au chapeau et ainsi que les. Non, je sais pas qui je remercierais en vrai. Je pense que est-ce qu'on s'est déjà tous dit, même tu vois, au-delà du métier de comédien, est-ce qu'on s'est déjà tous dit, tiens, si, qu'est-ce que je dirais un discours de remerciement à une cérémonie? Est-ce que tu t'es déjà dit, par exemple?
Ah, moi, je me suis déjà dit ça.
C'est vrai.
Cyrus, cette scène.
Je pense que j'ai joué. Ouais.
Alors, quelle cérémonie c'était déjà? C'est intéressant. Est-ce que tout le monde voit les Oscars ou tout le monde voit juste, je sais, j'ai eu mon bac et j'ai envie d'en parler.
Non, c'est un truc hyper fat de ouf. Donc, souvent, c'est Oscar, quoi.
Moi, c'est les deux. C'est Oscar et César. César, parce que je sais que je regardais ça en famille avec ma mère, ma grand-mère, mais mon père quand j'étais plus gamin. Après, plus du tout. Mais moi, je crois que j'ai souvent réfléchi à mon discours de remerciement, mais pour pouvoir remercier ma famille. Mais ça me fait penser un peu à Monica dans... Je sais plus si c'est Monica dans Friends, où ils font un concours pour faire pleurer, en fait, les mariés pendant leur discours.
Ah oui, la surenchère.
Et en gros, je crois que ce qui me plaît, c'est... Souvent, j'ai imaginé que je serais trop badass comme Brando à dire, tu sais quoi, je le prends pas. Et c'est un Algérien qui va venir le prendre, tu vois, pour parler de la condition des Algériens en France. Mais et sinon, c'est souvent pour faire pleurer mes parents ou me dire, ouais, je vais remercier les gens qui ont compté pour moi. T'as toujours envie d'être un truc qui marque et pas juste... merci, je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour parler, mais merci. Et t'as toujours envie de dire un truc stylé, mais je pense qu'en vrai, je serais juste une respiration forte et un merci. Quoi.
Est-ce que du coup, par rapport au fait que tu dis que t'as envie d'être marquant, est-ce que le fait de remercier ses parents, sa famille, c'est pas déjà un peu
conflictuel? C'est pas marquant du tout. C'est pas marquant du tout. C'est pour ça que je suis souvent, j'abandonne l'idée. Mais je.
Alors que dire, tu vois, je remercie la moquette
voilà.
De Shining.
Ah oui,
mais c'est
oui,
dur
là,
justement.
Quelque chose de fort.
C'est hyper dur. C'est soit t'écris un truc hyper mignon, soit t'écris un truc hyper mignon. T'as tout un fil conducteur où tu pars de la bouloche sur une moquette pour raconter que c'est le premier truc que t'as vu sur une scène de théâtre et que sans cette bouloche tu serais jamais arrivé là.
Ça c'est César. Hein,
ça c'est César. On est d'accord. Ouais. César ou Molière. Et Oscar, déjà tu t'émerdes avec l'anglais que tu possèdes. Et moi je pense que j'aime bien quand les gens remercient, sont trop contents déjà d'être nommés à côté de gens que t'as admirés, tu vois, ça c'est génial.
L'humilité.
Ouais, l'humilité, mais c'est vrai que pour les Oscars surtout, ça fait ça pour certains qui sont encore assez jeunes et qui vont être nommés à côté d'un Gary Oldman, etc. Je trouve que tu parlais de ça, du fait que quand t'es nommé et que tu retrouves ton discours après et que tu l'as pas eu, être nommé déjà c'est un truc de ouf.
Ouais, bien sûr.
Parce que t'as quand même ta petite tête en train de flipper dans le truc en mosaïque là.
Ouais.
Et je trouve que si déjà on t'a envisagé pour ça, parce qu'il y a une autre phase qui fait mal aux fesses dont on parle jamais, c'est que t'es prénommé. Et parfois t'es prénommé et après on te dit en fait non t'es pas nommé.
Ouais. Tu le sais, genre t'es dans un des 40 acteurs.
Ouais,
exactement.
Ouais. Et c'est une mini pré-sélection. Donc déjà, c'est un peu stylé, tu reçois un papier qui te prévient que tu vas être prénommé. Et là, tu te mets un peu à nourrir le rêve d'être nommé déjà. Et après, quand t'es nommé et que tu t'es pas pris, c'est encore un autre délire. Je pense que si t'es nommé et que t'es pas pris, c'est déjà quand même stylé.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que tu dois être partagé entre te dire, soit allez, j'ai une tribune dont j'aurais plus jamais la même pour vraiment remercier et parler des gens qui comptent. Et aussi, ce fait de te dire, j'ai envie de rester dans les best-of des meilleurs remerciements des Oscars de tout le temps et faire un truc un peu original.
Ouais.
Genre, je pense au discours qu'a fait Philippe Catherine dans les derniers Césars, qui est assez cool, quoi, finalement. Il a réussi aussi à être touchant, c'est là.
Mais je pense
que j'ai pas vu ce qu'il a fait. Il a
c'est
fait
aussi cohérent. Bah, vas-y, alors, si tu veux décrire.
En gros, donc, il gagne le César du meilleur second rôle pour Le Grand Bain de Gilles Lelouch et il axe tout son discours sur que deviennent les personnages des films une fois que le film est fini et qu'on les abandonne. Et du coup, il raconte un petit peu la vie de son personnage à lui et qu'il veut remercier ce personnage-là en décrivant potentiellement un peu son quotidien et tout ça.
D'accord.
Mais là, en plus, c'est totalement cohérent avec lui, dans le sens où c'est déjà, Catherine, c'est déjà un perso assez lunaire, assez ouais. marrant. Donc, du coup, il est dans cette veine-là. Je pense que c'est peut-être, je sais pas parce que j'ai jamais été confronté à ça, mais c'est certainement la meilleure méthode, c'est de faire un truc qui te ressemble, en fait, en remerciement. J'aurais du mal à voir Jim Carrey, d'un coup, être très, très, très sombre et touchant.
Ouais. Quoique
maintenant, tu peux te poser la question sur son dark side. Mais... je pense qu'il faut être le plus honnête avec soi-même et plutôt que chercher les faits. Enfin, moi, en tout cas, je me dirais ça. Moi, je sais que les peu de remerciements que j'ai pu faire, c'est à la fin de mes spectacles ou là dernièrement sur ma BD, mais je remercie tout le temps un peu la même chose, c'est-à-dire, et en plus, c'est cohérent avec le cinéma, c'est les Monty Python et John Carpenter. C'est un peu tout le temps ça qui revient parce que c'est ce qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Donc, je pense que je dirais ça, en fait, tout simplement. Quoi.
Ouais, c'est ça. Tu dis merci à tes inspirations, tes références.
Je pense, ouais.
Les gens qui t'ont soutenu, mais en général, tu le dis un peu sommairement. Mais ouais, comme tu dis, puis ça dépend à quel âge ça t'arrive aussi. Est-ce que t'as vécu dans ta vie?
Ah bah c'est sûr que si c'est à 5 ans, tu dis là trop, tu dis des gens qui m'ont marqué jusqu'à maintenant. Et surtout pas de patrouille sans qui je serais pas là aujourd'hui devant vous ce soir.
Ce sens de la justice qui m'a permis de...
Tu vois, Philippe Catherine, il a 50 ans. Et quand ça lui tombe dessus, c'est tellement surprenant pour lui que ça lui tombe dessus, qu'il a une espèce de dérision par rapport à ça. Et en plus, comme tu dis, c'est un personnage, donc on accepte toutes ses fantaisies, parce qu'après, il s'est mis à chanter assez faux, je sais plus quelle chanson. Ça durait assez longtemps. Et les gens sont entre la gêne et l'amusement. Et lui, il s'amuse avec ça. Il a toujours été comme ça. Donc je me suis dit, trop bien, mec, tu t'éclates et tout, c'est trop bien. Mais je sais pas si c'est sain de trop réfléchir à ça, en tout cas.
Mais c'est marrant, parce que moi, pour le coup, genre, les parents, ça serait, je pense, le premier truc.
Ah ouais, normal.
Mais genre, plus que les inspirations, les machins, etc. Genre, papa,
parce que
maman
t'es un gros,
et tout.
T'es un gros suceur aussi, faut le dire quand même un petit peu. un petit peu.
Non, mais parce que tu vois, genre, je considère que c'est vraiment la base du truc. C'est vraiment le plancher de la maison. Tu vois.
Mais justement, vu que c'est tellement la base, pourquoi le dire?
Tu viens de comparer ta mère à un sol quand même, c'est pas ouf.
Oui, mais attention, moi je pense que c'est un joli sol, c'est du marbre hein, à mon
avis.
Pour
faire plaisir à tes parents, j'ai l'impression que moi les remerciements c'est surtout pour les gens qui t'aiment, pas tellement pour toi.
Ouais,
donc les gens qui t'aiment sont trop contents de pouvoir se revoir le DVD de...
Et puis tu les as tellement, enfin moi je me dis, potentiellement je les ai tellement saoulés entre guillemets avec ces projets-là, avec cette vie-là, que machin, que tu sais au bout d'un moment quand t'arrives à ce truc-là, tu dis voilà, par rapport à tout ce que vous m'avez donné, moi, la seule chose que je peux vous rendre, c'est juste vous remercier à ce moment-là, quoi. Tu vois.
Moi, je pense que je remercie tous les parents qui existent au monde parce que ça me permet de faire ce discours vu qu'à chaque fois, on parle de vous et ça m'a donné envie, du coup, d'être là devant vous ce soir pour faire un discours original. Merci à tous. Ce serait une mise en abîme un peu plus rigolote, peut-être.
Et donc, du coup, des deux, tu disais que toi, tes références, en tout cas, tes sources d'inspiration, donc c'était Carpenter et les Monty Python.
Ouais, les principales, on va
principales.
Dire.
Principales. Nico, toi, ce serait qui si tu devais vraiment juste faire parler de gens qui t'ont donné envie de faire ce métier, soit dans le milieu de la comédie, de l'acting ou pas du tout, ce serait qui?
Alors, dans les acteurs que j'ai adoré petits, qui m'ont même donné envie de fumer des clopes.
Gorbatchev.
Non, mais ouais, Ventura, je suis un peu...
Ace Ventura.
Ah ouais, j'aime beaucoup aussi, ouais. Elles ont toi.
Je suis, c'est marrant. Non, bah oui, les vieux de la vieille, un peu Lino Ventura, Gabin, Belmondo. Belmondo, ça a été une grosse inspiration en termes de charisme, de choses comme ça. Après, les grands acteurs américains. J'ai été très marqué, moi, par Gene Hackman dans French Connection.
Ouais.
Je sais pas, je trouvais que son style un peu...
Popeye.
Ouais, Popeye, son côté gueule cassée, je m'en bats les couilles de tout, j'ai beaucoup aimé ça. Et après, les inspirations, ouais, les Monty Python, bien sûr, même les inconnus, hein, quand j'étais petit, je refaisais les sketchs, j'étais comme un dingue sur le rapport à la comédie, à la parodie, à tout ça, quoi. Et Jacques Tati.
L'inventeur de la chaîne de magasins. Pour les gens qui...
Ouais, écoute, voilà.
Qui savoir que Nicolas Bernot a 284 ans, hein, pour ceux qui
ne savent
pas forcément. Comme ça, on recontextualise un petit peu ses références.
J'ai que des refs. En plus, quand on va venir à le meilleur acteur, la meilleure actrice, je suis tellement vieux. Ouais,
j'espère que vous aimez le noir et blanc, quoi.
Je suis vieux. Mais...
Non, le sépia, même encore avant.
J'ai dit Max Linder.
J'espère que vous aimez les pyrogravures pour entendre parler des acteurs préférés de Nicolas.
Ah, le bâtard.
Sérieux, ça aurait été qui, toi, les refs?
On aurait aimé mettre les liens dans la description, mais ils ne sont pas disponibles, du coup.
Bah non.
Sur Lina.
Mais par contre, vous pouvez aller au Louvre et tout bien étudier très facilement.
N'hésitez pas à vous rendre à Lascaux pour vraiment admirer.
C'est le premier film d'animation, Lascaux. Je suis
tout à fait, évidemment. La base.
Sérieux, ce serait qui toi les grands noms que tu remercierais
Les grands noms. Attends, moi je vais disclaimer un truc tout de suite. Je pense que
Est-ce qu'on peut parler français, s'il
oui,
vous plaît,
s'il te plaît, ouais. Sérieux. Disclaimer.
C'est-à-dire.
Un avertissement.
Et voilà. Avertir. Voilà. Il sait même plus ce que c'est en français.
Un avertissement, c'est
déconnecte
ça
un peu, Cyrus.
Ça marche. Non, parce qu'un avertissement, c'est warning.
T'es limite nervous breakdown.
C'est quoi? C'est un élément de compréhension? Non, c'est pas ça.
Non, mais là, c'est prévenir.
Ah, ok.
Ouais, je voulais prévenir de faire une petite prévention, prévenir de quelque chose. Non, en gros, c'est avec Nico qu'on avait parlé du sujet de ce podcast. Et Nico, il a dit moi avec Dedo, j'en parle beaucoup. On est passionné de ça et tout. On est des cracks, machin et tout.
T'as dit on est des cracks?
Ouais, rien, non, à, rien à voir avec.
Là, il me vieillit encore plus. Oh, tu vois. Ouais. Attends, mon gars, on est
si,
des cracks.
Si, mec, t'as posé ta canne et tout.
Allez,
et
je te laisse, j'ai un tuyau dans Paris Turf.
Dans Paris Turf.
Et
je vais
genre,
prendre ma pénicilline. Allez, à tout de suite.
Moi, tu vois, genre, par rapport à Nico et Dedo. Et je sais pas par rapport à toi Tom, mais moi clairement je me sens, enfin j'ai pas du tout l'impression d'avoir le même bagage culturel, donc clairement la moitié des noms que t'as sorti mec, je les connais app, tu vois.
Oui, okay, clairement, niveau bagage culturel, ils ont une valise en soute, on a une petite banane.
Ouais, mais on est plus vieux aussi.
Non, lesquels du coup? Alors Ventura, tu l'as pas?
Non, mais Léo Ventura, genre je connais deux noms, jamais vu.
Déjà t'as dit Léo Ventura,
pas prénom,
Lino,
par contre.
Non, j'ai dit non, Lino,
il a dit Ventura.
Ouais, bah Ventura.
Ah, c'est vrai, il le dit presque
à l'italienne.
Ventura.
T'as pas vu un seul film de Lino Ventura?
Non.
C'est vrai?
Ouais.
Si, mais tu dois.
Jacques Tati, pareil, je connais deux noms.
L'aventure, c'est l'aventure, tu l'as pas vu?
Non.
Ah, ok.
Ok.
Mais c'est cool, ça veut dire qu'il te reste plein de trucs à voir.
Attends, l'emmerdeur.
Moi non plus, sérieux, en vrai.
Non, mais moi, aucun de ces films-là, vraiment.
Bon, Ventura, d'accord. Alors, il y en avait d'autres où t'étais un peu moins? Belmondo, t'en as.
Belmondo, je connais deux noms. J'ai dû voir L'As des As ou un truc comme As.
Ah, pas mal.
C'est tout, tu vois. Et j'ai vu des extraits à la télé il y a longtemps. Enfin, je me souviens même plus de l'intrigue du truc.
Ah, et Romy Schneider aussi m'a beaucoup influencé. C'est ce que j'étais amoureux d'elle aussi.
Toujours, hein, d'ailleurs, je crois.
Ouais.
Oui. Toute proportion gardée, parce qu'effectivement, là, faut aller au Père Lachaise pour.
Bah, maintenant, les gardiens me connaissent.
Célébrer son amour, mais...
Les gardiens me connaissent, donc je suis
voilà,
mais...
C'est un peu plus sympathique. Il faut avoir des passes droits à Paris, mais c'est une autre histoire.
Et donc, du coup, des acteurs vivants, toi, ça aurait été.
Des acteurs en couleur,
il a pas tort. Même pour Belmondo, il a pas tort en vrai.
Ah ouais, non, pas. Arrête, il est pas encore mort.
C'est un homme de Schrödinger, un peu Belmondo. On sait pas trop s'il est en vie mort. On n'ose pas trop savoir.
Non, moi, en vrai, le gars où je me suis dit, putain...
Je le connais, ce bâtard.
C'est trop cool d'être à l'aise comme ça et de pouvoir faire tout ça et de manier aussi bien son corps, son visage, machin et tout.
Jim Carrey.
C'est Jim Carrey.
Bien sûr.
C'est...
Là, t'as une petite... Il y a un fact où t'as une interaction avec Jim Carrey.
Ah, ça va, ça.
Ah là, on veut entendre cette anecdote.
Non, c'était sur... Mais c'était il y a longtemps, c'est sur mon premier compte Twitter. Il avait dit un truc, je lui avais écrit et il m'avait répondu.
Wow.
Ouais, bah alors là, si tu dis. On peut avoir un peu plus de détails.
Oui,
parce
qu'on veut l'échange.
Le détail.
Bah, un jour, en fait, il était en face de moi, on s'est dit des choses, et puis après, c'était
non, fou. En gros, il a fait
tu
un tweet.
Trop bien les histoires.
Il a fait un tweet en disant, genre. Oui.
Je fais des grimaces. Ouais. Je suis détective pour animaux. Ouais.
Parfois, je porte le masque. Alors que je suis triste.
Non, il a dit un truc genre en
ma
mode.
Vie, c'est pas une télé-réalité. Pardon. Désolé.
Il a dit. C'était quoi?
En tout cas, ça t'a marqué. C'est ça qui est important.
C'était une anecdote. On comprend que tu veuilles le remercier.
C'était une anecdote de vie qui était vraiment prégnante.
Non, mais il a dit un truc genre. Le monde ou la terre, c'est comme être en enfer ou un truc comme ça. Je sais plus comment il l'a dit.
Il allait bien déjà.
Mais c'était pas que ça le truc. Mais j'ai gardé le screen quelque part dans un vieux disque dur, tu vois.
Et tu lui as répondu,
et
franchement,
moi,
t'as trop raison.
Non, et moi, je lui ai répondu.
Ouais, j'ai un retweet.
Je lui ai répondu, genre, ouais, mais l'humour permet de transformer cet enfer en je sais plus quoi. Genre, je sais plus, c'était peut-être
paradis
peut-être.
Ou l'illusion d'un paradis.
Voilà.
Ou...
voilà, un truc comme ça. Et il m'avait répondu, il m'a dit, l'humour peut-être pas, mais l'amour sûrement.
Waouh.
En gros, un truc comme ça.
C'est beau. Génial. Et c'était un compte certifié ou pas? Parce que ça se trouve, c'est un gars juste qui était là. gars, il croit que je suis Jim Carrey.
Non, c'était clairement lui en termes de followers, dans un machin. Okay. Je sais plus, à l'époque, je sais plus s'il y avait des certifs, je pense.
Ouais.
Mais
après, ça veut rien dire les followers. Dieu, il a beaucoup de followers. Je suis pas sûr que ça soit un compte certifié sur Twitter, par exemple. Parce et c'est écrit Dieu. Hein.
Mais je crois que c'est. Ah, oui.
C'est le vrai Dieu.
Parce qu'il y a la mort qui est certifiée.
Et c'est vraiment la mort alors?
Ouais.
Putain, ils ont le temps de faire ça avec tout le boulot qu'ils ont, c'est fou quand même.
Mais non, ils ont des community managers.
Ah, voilà.
Ouais, oui.
Ouais, mais ça me rassure, ce que je me disais, c'est un truc à plein temps, ça. Vraiment.
Bah ouais, normalement, ouais.
Je me suis posé plusieurs questions, évidemment, en préparant cette émission, mais il y en a une où je me suis dit, putain, c'est vrai qu'on dit toujours, non mais ça, c'est un vieux film. Et du coup, je voulais savoir.
Tu parles de moi là ?
Non.
Elle va se sentir souvent.
Pour vous, à partir de quand, c'est quoi les indices qui disent qu'un film on considère comme un vieux film ?
Tout dépend si on parle à l'échelle du médium ou si on parle à l'échelle de la relativité que t'as avec l'œuvre.
Oh, wow, cette phrase
ouais.
Les gens le savent pas, mais là, il est nu et il évite.
Oui. Oui. Et là, du coup, en m'en rendant compte, je me suis gouffré au sol. Mais c'est pas grave, du coup, je me relève un petit peu. Mais c'est vrai, c'est pas la même chose. Le cinéma a officiellement, on va dire, un peu plus de 100 ans, à peu près.
Ouais.
Donc déjà, tu peux relativiser vachement par rapport à ça. Et ensuite, je pense que c'est souvent par rapport à l'âge que tu as quand tu découvres une œuvre, une œuvre aussi. Je pense que là, maintenant, un mec de 30 ans, tout ce qui a un peu plus de 30 ans, il peut peut-être le considérer comme vieux. Mais quand tu aimes le cinéma, je pense que juste tu te dis c'est des films anciens, mais pas forcément vieux.
Ouais,
et
voilà.
tu vois pas le côté, en tout cas, un petit peu...
Parce que vieillesse, il y a dégradation.
Ouais, le côté caduque, le côté un peu pété, tu vois.
Ouais.
Pour moi, il peut y avoir... Et il y a d'ailleurs, il y a des films des années 30, 40 qui sont des très très bons films. Et c'est pas parce qu'ils ont une canne qu'ils ont pas... Moi, je pense que mais si on doit faire une analogie justement avec l'âge, ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience.
Et pour moi, c'est cumulable. C'est-à-dire que ça peut être un vieux film et un classique.
Complètement.
Ouais, mais ça aussi.
Tu vois, genre par exemple, Dedo, il a un t-shirt Jaws, ouais. Donc Les Dents de la Mer.
Ouais.
Pour moi, c'est un vieux film.
75,
mais c'est aussi un classique.
Ouais, mais en fait, comme
mais
tu...
pourquoi alors
d'un point de vue historien, d'un point de vue historien,
alors laissez parler Monsieur El Kabach.
Pardon. Écoutez, non mais d'un point de vue chronologie, oui, c'est un vieux film parce qu'il a presque 40 ans maintenant.
45 ans même.
45 ans même. Mais la notion de vieux et de classique, pareil, le classique, je trouve, c'est une catégorie. C'est parce qu'il faut l'estampiller sur un truc pour expliquer qu'il rentre un peu dans. Comme le Hall of Fame pour les sports, etc. Mais pour moi, un film qui te touche encore aujourd'hui, qui a 70 ans, les films de Charlie Chaplin, même les films de Jacques Tati. Comme a dit Dedo, ils ont une dimension moderne, donc classique, pour moi, c'est une catégorie à la Fnac en fait.
En plus, c'est subjectif dans le sens où, si c'est, je sais pas, on va reprendre un mec de 30 piges lambda, il va être habitué peut-être, s'il regarde que des films un peu contemporains, à un certain type de montage et une certaine grammaire. Et c'est vrai que depuis, on a vachement évolué depuis les années 30 ou 40, c'était pas du tout la même façon de raconter une histoire parce qu'on n'avait pas les outils adéquats. Donc les montages étaient beaucoup plus lents, les plans étaient beaucoup plus longs. Maintenant, c'est très cuté, c'est presque overmonté chez beaucoup, beaucoup de réalisateurs. Et du coup, si tu es habitué à ça, peut-être que d'avoir des plans très longs, tu peux être là, wow, c'est relou, il se passe rien. Mmh. Alors que c'est juste une autre grammaire et c'est une autre façon de raconter les histoires. Mais je pense qu'une histoire, si elle est bonne, quelle que soit la façon dont tu vas la raconter, il y a des chances qu'elle le reste à la fin. Il y en a qui vont le faire mieux que d'autres, mais une très bonne histoire, c'est une très bonne histoire. Donc on s'en fout qu'elle ait 100 ans ou 50.
Nico, Dedo, Sirius, un petit peu moins sur cette question-là, mais si t'as envie de partager ton expérience aussi, n'hésite pas.
Moi, Jim Carrey, vraiment.
Mais Jim Carrey.
Et du coup, est-ce que t'as vu Andy et Jim, le documentaire ?
Ouais.
Ouais, j'adore.
Alors ouais, moi, ça m'a plu. En vrai, ça m'a plu. Hein.
Ça t'a pas déçu un peu ?
Non, ça m'a pas déçu.
Ah non, moi non plus.
Mais j'ai même. Bah, on en a parlé d'ailleurs, Tom, dans le second épisode du meilleur podcast qui est sur la meilleure série documentaire Netflix.
Oui.
Et on a parlé
avec Rémi Boy et Nico Pilote.
Exactement, ouais.
Comment, du moment où on accepte un rôle dans un film, un court-métrage, une série, n'importe, comment on prépare ce rôle ? Comment vous taffez et vous vous dites, ok, du moment où il y a le premier action sur le plateau de tournage à avant avoir le script et dire, ok, je le fais, comment un acteur travaille un rôle ?
Bah, vas-y, Dedo.
En premier ? Ouais. Je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, ça va dépendre de la couleur et de la psychologie du personnage et de son état.
Attends, Tom, tu peux ranger ton carnet de notes, s'il te plaît.
Dans le sens où tu vas pas, je pense que tu prépares pas un rôle, enfin en tout cas, tu le traduis pas physiquement de la même manière un personnage qui est très torturé et un personnage qui va être beaucoup plus lunaire ou marrant, ou en tout cas qui va avoir une psychologie moins tranchée, entre guillemets. Donc c'est vraiment beaucoup au cas par cas. Je sais qu'il y en a qui aiment bien intégrer à mort le texte avant dans tous les sens. En fait, je pense que la seule bonne méthode, c'est la méthode qui te convient. Que ce soit Stanislavski ou Actor Studio ou toi face à ton miroir.
Est-ce que tu peux très vite fait expliquer ce que c'est, genre la différence entre Stanislavski et Actor Studio par exemple
Vas-y.
Stanislavski, en gros, c'est tu observes le personnage comme tu observes un tableau. et tu fais le chemin de ce que tu es vers ce tableau. Mmh. Donc tu observes le contexte historique, ce qu'on appelle les circonstances proposées, et tu adaptes entre ce que tu es et ce que tu sais du personnage. Donc ça passe par une étude en fait du personnage, mais qui est un peu extérieure à toi.
Et qui peut être aussi relié à l'époque justement, voilà, exactement, dans laquelle il est présent.
Sur pourquoi il emploie tel langage. Donc il y a quand même, on est beaucoup dans le texte, dans le comportement, dans comment s'habille en fait ce personnage. Mais ça reste une composition. L'acteur studio en fait te demande d'aller puiser en toi, dans ce qu'ils appellent le background émotionnel, et si tu n'as pas en toi le vécu du personnage, de te mettre en tout cas dans la position d'être le réceptacle des émotions du personnage. C'est pour ça que c'est très dangereux si psychologiquement t'es pas solide, parce que tu peux t'oublier toi-même dans un personnage. Donc ils disent en gros de vivre quasiment ce que vit le personnage, sauf si c'est un tueur en série, tu vas pas te mettre à tuer des gens en série, mais ça passe par une immersion totale, par effectivement une espèce d'incarnation.
C'est une sorte de mimétisme psychologique en fait, qui te fait que, selon d'ailleurs certains comédiens, c'est arrivé régulièrement, donc le cas du serial killer à part, tu te retrouves à jouer vraiment ça, et c'est-à-dire que...
Bah, Jim Carrey, justement.
Jim Carrey, par exemple, mais par exemple De Niro dans Taxi Driver, voilà. Il a été taxi pendant un mois,
ouais.
Vraiment taxi, donc t'as besoin quelque part, enfin en tout cas avec cette méthode, t'as besoin... de te mettre complètement dans la situation, donc tu vis la situation.
Alors que Stanislavski, c'est moins engageant, j'ai l'impression.
Oui, c'est moins engageant.
Ouais,
psychologiquement, émotionnellement, sur la préparation.
Il y a de grands acteurs qui utilisent la méthode Stanislavski.
Il n'y a que des grands acteurs, quelle que soit la méthode, quand c'est des grands acteurs.
En fait, la méthode acteur studio, mais la méthode acteur studio, c'est la méthode Stanislavski adaptée à l'industrie américaine du cinéma. C'est-à-dire que c'est Strasberg qui revient d'Europe avec Stanislavski plein la tête et plein la bouche, parce que c'était le metteur en scène de Tchekhov, et que c'était le quelqu'un qui avait si bien compris justement les nuances de la psychologie humaine, etc. Et donc il est revenu, et s'est adapté à la culture américaine, qui est dans une culture d'immédiateté, de résultats, et du cinéma surtout.
Et de modernité.
Voilà, et c'est pas la même recherche. Stanislavski, c'est surtout, c'est très adapté pour le théâtre, un petit peu moins pour le cinéma, ou en tout cas moins pour le cinéma américain, et donc c'est une adaptation en gros de la méthode Stanislavski. L'acteur studio, c'est un mélange de tout ça. C'est voilà, il faut puisque le cinéma te donne l'illusion d'une authenticité, d'une vérité. Du coup, il faut être au plus près de cette vérité. Il faut que la caméra, elle vienne presque de manière un peu intrusive, venir choper quelque chose d'intime comme ça de toi. C'est comme tu disais tout à l'heure, Dedo, c'est du cas par cas. On n'a pas la prétention de se dire qu'on est toujours dans une grande préparation, une immersion, parce que les rôles n'exigent pas toujours ça de nous. C'est pour ça que quand on parlait de Jim Carrey tout à l'heure, moi je respecte, parce que quand on voit le résultat, on fait « Bah ok mec, si t'as eu besoin de ça pour ce résultat-là, moi j'étais tellement ébloui par ce que t'as fait que bien joué. » C'est dommage pour peut-être tes potes, tes proches pendant ce temps-là, parce qu'ils ont dû en prendre plein la tronche, mais moi en tant que spectateur, je comprends pourquoi t'as eu besoin de faire ça, parce que le résultat est à la hauteur de ça. Taxi Driver, j'ai toujours eu ce truc, même si j'adore Robert De Niro, mais j'ai toujours eu ce truc un peu amusé de dire « Mec, calme-toi. » Non mais tu vois, genre t'as besoin de conduire un taxi dans les rues de New York pendant un mois juste pour pouvoir savoir comment tu vas regarder dans le rétro et encaisser un petit peu ce que ça veut dire, tu vois. Mais après, t'as plein de gens qui disent « Ouais, mais tu sais pas, peut-être qu'il aurait pas fait le même film s'il l'avait pas fait ce qu'il a fait là. » C'est sûr, on peut jamais le savoir. Mais c'est sa cuisine à lui, je m'en fous un peu.
C'est comme Nicolas Cage dans, je crois que c'est Leaving Las Vegas, ouais, de Mike Figgis, qui a eu l'Oscar pour le rôle. Il joue le rôle d'un alcoolique. Bon, clairement, il est devenu alcoolique pour le tournage.
Et là, c'est donc, presque vois, plus c'est... de l'acting. Quoi.
Ça, ouais, toutes les transformations physiques de Bale et tout ça.
Ouais, voilà.
Mais Bale, c'est encore autre chose parce que... Tu vois, si t'en es... En fait, Bale, pour le personnage, il était obligé de perdre beaucoup de poids.
Dans The Machinist,
c'est ça ? En tout cas, tu parles de The Machinist ou Under Siege de Herzog, il y en a plein. De toute façon, il a passé son temps à prendre 50 kilos, en perdre 30. Perdre. Je sais même pas comment ce gars-là est encore en vie.
Ah, moi non plus.
Au-delà du fait que c'est un comédien incroyable. Et ouais, donc, tout dépend jusqu'où tu veux mettre ta limite. Là, pour le personnage, c'est logique de le faire. Si le personnage nécessite une perte ou un gain de poids. Mais si t'es un alcoolique, si t'es obligé de jouer un alcoolique... Tu peux, hein, parce que chacun fait comme il veut, effectivement, mais tu te dis, ouah, c'est poussé très loin. Je crois que Jared Leto sur Requiem for a Dream, c'est pareil, il était limite, quoi.
Ah ouais, ah,
il a tâté deux, trois trucs, quoi. Ah ouais.
Je crois que Christian Clavier sur Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu, est vraiment devenu
raciste. Mais oui, il est devenu raciste pour le rôle.
Pour le rôle, version totale.
Et complètement. Et il est devenu un personnage détestable, alors que tout le monde sait que c'est un gars adorable à la vie.
Il y a un documentaire qui sort sur Netflix, d'ailleurs, qui est en hommage à ça.
Christian.
Jacouille et moi, je crois.
Ouais, c'est ça. C'était. Je l'attends avec impatience.
Christian et Jacouille.
Je lisais Sidney Lumet sur Making a Movie, je crois. Et il raconte une anecdote sur Marlon Brando. En gros, il raconte que... Mais vous l'avez lu ou pas?
Non.
Parce que tous les deux, vous me regardez en faisant... Oui,
ah non, mais on est dans une écoute active.
Ok, ouais, je me suis dit, ouais, mon anecdote est nulle, tout le monde a lu ce truc.
Non, mais je pense qu'on connaît Sidney Lumet, tous les deux. Voilà, c'est ça.
Et donc, il raconte que Marlon Brando, en fait, à chaque fois... qu'il arrivait sur un set, genre la première fois quand il était confronté à un réalisateur
sur un plateau hein, pour les francophones.
C'est vrai que c'est un genre de tennis. C'est ouais, c'est quand même bizarre,
tu fais bien de faire un disclaimer.
À chaque fois qu'il arrivait sur un plateau et qu'il rencontrait un réalisateur pour la première fois, genre il faisait une prise, tu vois, où il donnait vraiment pas le meilleur de lui-même, tu vois. Il regardait si genre ça allait au réalisateur.
Ah, il le testait.
Voilà. Et en fait, si le réalisateur ça lui allait. Ben, sur le reste du film, il allait être insupportable et
il le respectait plus
et
quoi.
Aucun respect et tout parce que et en fait Sidney Lumet expliquait que c'est un
Lumet.
Yes. Non parce que j'étais passé en francophone, c'est pour ça.
Ah désolé.
C'est pour ça que je disais rien moi, j'étais oui, bah tout à fait.
Non mais t'as dit en Sydney. Plus en étant sympa, on connaît tous Sidney Lumet, tu l'avais dit pour qu'il se rattrape
c'est vrai.
Tout à l'heure, j'ai vu. Mais t'as pas
Non, mais c'est la version française.
Pour ceux qui ne connaissent pas Sidney Lumet, c'est un des films les plus connus de Lumet. C'est Un après-midi de chien avec Pacino, je pense. Et puis plein d'autres. Mais Network aussi. Enfin bref.
Et donc le mec il raconte qu'en fait, ça demande tellement de soi quand t'es acteur de sortir ce que t'as. Et genre, c'est se rendre tellement vulnérable en fait, face à la caméra, etc. Que Marlon Brando n'était pas prêt à le faire face à quelqu'un qui n'était pas capable de voir la différence entre une bonne prise et une mauvaise prise. Quoi.
Ouais, après Brando c'est un personnage particulier.
C'est ce que j'allais dire. C'était quand même un peu des fois un mec un peu chiant.
Ouais, je pense qu'il faisait juste
une relation de couple relou quoi.
Et il faisait très peur et ça se trouve il est tombé sur un jeune metteur en scène qui regardait Brando avec un amour inconditionnel et qui s'est dit voilà, je la trouve pas terrible mais je vais pas dire ça à Brando et où tu fais t'es une merde.
Bah ouais,
et tu fais non, je suis pas une merde, j'ai juste peur de toi mon gars. donc et en plus Brando c'est un exemple particulier parce que comme t'as dit Dedo, c'est un mec surdoué qui l'a su très vite aussi.
À qui on l'a dit très vite
et ça a été un enfant pourri gâté. D'ailleurs, il s'est brûlé très vite aussi. Hein. Le parrain, c'est un miracle dans sa carrière. Normalement, il était enterré déjà à l'époque du parrain.
Coppola, j'ai ma question du coup, Tom, avant que tu enchaînes. C'est est-ce que vous pensez, selon vous, que l'acting, genre le travail de comédie, etc., machin, est-ce que c'est à quel point c'est de l'inné, à quel point c'est de l'acquis? Est-ce que quelqu'un qui vraiment de manière innée est nul en comédie, mais genre vraiment il est zéro, tu vois, genre il est incapable de faire quoi que ce soit.
Quand tu dis en comédie, en comique.
Ouais, genre non, en jeu. En jeu quoi, c'est-à-dire genre vas-y fais semblant de machin, attends j'arrive pas, enfin vraiment tu vois quelqu'un qui est pas à l'aise avec voilà tout ça. Est-ce qu'il peut devenir, ou est-ce qu'elle peut devenir un acteur ou une actrice?
Bah moi je dirais que ça dépend si on parle de théâtre ou de cinéma.
On parle de ciné là.
Ok.
Déjà. Ah, ciné, tu peux tricher au cinéma, je pense, plus qu'au théâtre.
Ah ouais, moi c'est marrant parce que je pense que...
Le montage, en tout cas, peut sauver des compositions au théâtre si t'es moyen. T'es
ah oui,
moyen.
Non, ça c'est sûr, mais je pense que l'inné marche énormément au cinéma. C'est-à-dire que...
Oui, je vois ce que tu veux.
C'est-à-dire que quand t'as une personnalité incroyable, ça veut pas dire que tu sais incarner d'autres personnages. Quand t'as une personnalité incroyable, un magnétisme dans la vie, tu peux être un grand acteur de cinéma parce que le cinéma adore, en fait... capter justement des personnalités fortes.
Genre qui ça pourrait être par exemple?
Jack Nicholson, je pense que avant même d'être un bon acteur, c'est un mec, tu le vois dans une pièce, il a une gueule, il a une manière de bouger, de parler, et tu sens que ça c'est inné chez lui, que même quand il faisait 15 000 séries Z à l'époque, je pense qu'il avait déjà une classe incroyable. Fallait juste qu'il y ait le bon metteur en scène pour s'en rendre compte, mais je pense que quand tu pars avec zéro... à tout dans ce sens-là, je pense que c'est très compliqué d'être un bon acteur, effectivement.
Je pense.
Je vous propose, les amis, pour marquer une petite pause dans cette émission, d'essayer une petite rubrique nouvelle.
Yes.
Cyrus, je t'en ai parlé un petit peu avant.
Ouais.
Une rubrique plante.
Alors ça va être très simple.
Quels sont vos conifères préférés? Bah moi, c'est le bégonia.
Que pensez-vous du yucca, surcoté ou sous-coté? L'idée c'était juste de se dire qu'en préparant cette émission, en fait, il y a pas mal d'infos qu'on brasse et c'est un peu frustrant parce qu'on va forcément toutes les recaser et du coup, c'était juste faire une minute des facts et juste de comme ça balancer des petites anecdotes, des petites infos pendant une minute. On fait un générique, on essaye.
Ouais.
C'est la minute fact. La minute fact.
C'est bien de dire essayer.
Seuls deux acteurs ont réussi à remporter l'Oscar pour un rôle non anglophone, l'Italien Roberto Benigni en 99 pour La vie est belle, tourné en italien, et le Français Jean Dujardin en 2012 pour The Artist.
Robert Downey Jr. a été nominé en 93 pour l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Charlie Chaplin.
Johnny Depp a lui aussi été nominé en 2003 pour son rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes.
Ah bon ?
C'est vrai ?
Ouais.
C'est mais ouf. Non.
Mais on dit pas nommé ?
Nommé, oh, alors les... je sais jamais trop.
Ouais, moi je
sais. Deux. Nommé, nominé.
C'est marrant.
Je crois qu'on dit nommé.
Nommé, je crois.
Pour Gilbert Grape, j'aurais compris, mais voilà. Pour...
Ouais, Jack Sparrow. Pour Jack Sparrow,
mais... ah, oui, oui,
c'était une année pauvre, je pense.
Et en parlant de.
Qui pouvait nominer.
Peut-être. En parlant de Johnny Depp, l'acteur souffre d'ailleurs d'un trouble, l'oniomanie. En conflit avec son gestionnaire de fortune, ce dernier a révélé qu'en 20 ans, la star a dépensé 480 millions de dollars, soit une moyenne de 55 000 dollars par jour.
Pas mal.
Un ranch dans le Kentucky. Un atelier aux Bahamas.
Un atoll.
Ouais.
Un atoll.
Mais il y a un atelier dans l'atoll. Hein.
Ouais.
Je suis allé, on est potes avec Johnny, bon bref.
Un atoll aux Bahamas, 5 villas à Beverly Hills. L'acteur a acquis 14 demeures pour un montant total de 75 millions de dollars. 200 œuvres d'art signées Warhol, Basquiat, Klimt ou Modigliani, 45 automobiles de luxe, 70 guitares de collection et des milliers de reliques de stars.
Est-ce qu'on sait moins ? Deux paquets de chewing-gum.
Ouais.
Il n'avait pas déclaré au fisc.
J'aime bien quand t'as dit deux reliques de stars, j'ai l'impression que c'était des vieilles stars.
Bah non, mais c'est ça. Il y a Sarah Bernard.
Brad Pitt. Il a Kirk Douglas.
Dans une cave. Brad Pitt a joué dans 4 épisodes de la série Dallas.
Ah ouais,
ouais, ouais. Il était un peu. On voyait un peu l'acné à l'époque.
Parce que moi j'ai regardé Dallas en entier. Je suis vieux.
Matthew McConaughey joue son propre rôle dans un épisode de Sex and the City en 2000. C'est saison 3, épisode 13.
Viggo Mortensen est également poète et peintre. La plupart des peintures qu'on peut voir dans le film Meurtre parfait sont de lui.
Ouais.
J'adore ce mec.
Ouais, Viggo, aussi, incroyable acteur. Ouais.
Christian Bale double le personnage Thomas dans le Disney Pocahontas.
Ah tiens, je savais pas ça.
Et enfin en 2013, pour la 85e cérémonie des Oscars, la comédienne la plus âgée et l'actrice la plus jeune jamais nommée dans cette catégorie se retrouve en compétition. C'est Emmanuelle Riva, 86 ans, pour le film Amour, et Gwenzane Wallis, 9 ans, pour Les Bêtes du Sud Sauvage.
Et qui a gagné ?
C'est Riva, je crois.
On peut continuer cette émission.
Je crois que c'est des fun facts, mais pas des fun facts avec réponse.
Ah ouais.
Non, fallait juste consommer ce qu'on donnait. On
bah merci pas, pour on ces petites gourmandises de facts.
Quel âge il avait, Haley Joel Osment, dans Sixième Sens ?
Il a eu l'Oscar pour celui-là ?
Non, il était nommé, mais il devait pas être beaucoup plus vieux que 9.
Il
devait avoir 11-12, peut-être.
Après, j'ai l'impression que il était plus vieux que son physique. Ce qui le rendait très mature dans le jeu, peut-être. Mais...
Ah non, mais même dans le discours, moi je me souviens d'une interview, mec, c'était flippant. Il avait des mots d'adulte. Mais tu sais, vraiment, ouais, là tu parles. Bah écoutez, moi je trouve que la composition d'un personnage, c'est avant tout. J'étais là. T'as 9 ans ! T'as 9 ans, arrête de parler comme ça ! Ça me fait trop peur ! T'as 9 ans !
Ah, je suis choqué moi par Johnny Depp par contre.
Les problèmes d'argent ?
Ah, Johnny Depp, c'est ouf, ça je savais.
55 000 dollars par jour.
Ah, je sais pas si on parle de problèmes d'argent, on parle de problèmes de dépenses là. Mais je crois qu'il a pas de problème d'argent par contre. Hein. Ouais. Ça se passe bien.
Non, mais je crois qu'il a failli en avoir justement. Parce qu'il avait vraiment des dépenses trop grandes par rapport à ça.
T'as plein de stars comme ça.
Et le délire de divorce.
Qui se sont retrouvés fauchés parce qu'en fait ils ont pas payé leurs taxes.
Ouais.
Et du coup l'État est arrivé et paf.
Wesley Snipes.
Ouais.
Il a fait de la tôle aussi.
Je suis en train de. Peut-être qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir un mind blow. Est-ce qu'on dit être fauché parce qu'on a du blé ou pas du tout ? Je suis en train de me poser la question.
Ah oui, bah oui, si, fauché comme les blés.
Ouais, complètement. Ouais, complètement.
L'expression vient de
j'ai
là.
J'ai plus de blé, je suis fauché.
Ouais, ouais c'est ça. Voilà. Okay. Ouais. C'est que
du mais du coup, toi aussi, t'es vieux. Tiens, c'est marrant. Lui aussi, il est vieux du coup.
Mais il vient de découvrir.
C'est dur, dis donc.
Ma vraie personne.
Mais c'est vrai que j'ai des posters de De Gaulle dans ma chambre. C'est vrai, j'ai jamais fait le rapprochement.
Je m'habille comme Pompidou.
Bah alors.
Les amis, on est venu ici pour débattre d'un truc qu'on n'a pas encore fait depuis le début de cette émission. C'est la meilleure performance d'acting. On va en parler du coup maintenant si vous êtes chaud. Cyrus, ouais. C'est quoi pour toi la meilleure performance d'acting?
Je pense qu'il va dire Jim Carrey hein, de toute façon.
Non, alors en vrai, je me suis longtemps posé la question, tu vois. Genre, en fait, à chaque fois, il y avait des petits moments dans des films où je me suis dit waouh, mais genre. C'est rarement tout un film où je me suis dit putain quelle performance tu vois parce que je fais peut-être pas assez attention à ça, c'est qu'en fait souvent la performance quand elle est bonne bah tu l'oublies en fait généralement enfin moi c'est comme un montage quoi, un bon montage ça se voit pas tu vois, tu t'y penses pas au montage sinon j'avais pensé à moi j'hésitais entre deux trucs J'hésitais entre donc Heath Ledger dans le Joker, pour parce que sa performance est ouf, et même toute l'histoire qu'il y a autour, tout le mythe qu'il y a autour, tout, enfin, et puis même quand tu regardes des trucs, genre il y a un conte que je kiffe qui s'appelle
c'est la performance du suicide.
Il y a un conte qui est génial qui s'appelle Screenplay to Screen, un truc comme ça, où en tout cas, genre, t'as d'un côté.
C'est pas le corbeau et le renard.
Oui, ben c'est un conte.
Je crois que c'est ça. Hein.
En gros, t'as une partie de l'écran où, genre, tu vois le, je sais pas, le scénario qui défile, et donc tu vois les répliques des acteurs, et l'autre partie de l'écran, tu vois en fait le résultat final, quoi.
D'accord.
Et
je comprends pas quoi, c'est un conte.
C'est un compte Twitter, pardon.
Ah, okay.
Ah ouais,
c'est depuis le début.
C'était pas le même orthographe.
C'est pour,
hein,
ça qu'il était... c'est pour ça que je demandais.
Ah ouais, ouais.
Moi aussi, j'étais comme lui.
Mais parce que moi, je l'ai compris comme toi aussi. Mais... Dedo, il a réagi
à
mais
ça. Mec, moi, Dedo, j'étais comme toi.
Mais comment tu peux avoir un podcast? Vraiment, c'est impossible.
Non, mais fais plus de disclaimers.
Ah ouais. Donc toi, si t'as des enfants, tu vas dire, je vais te lire un compte.
Oui.
Et tu vas aller
en là. Alors,
nanofiction,
Woody Allen. Aujourd'hui, j'ai bien mangé. Merci, papa.
Mais il n'y a pas de dragon.
Grâce à toi, à chaque fois, je fais des bonnes nuits parce que tes histoires, elles sont super. RT.
Elles sont un peu courtes.
Putain, c'est très drôle. C'est très drôle, ça.
C'est très drôle. T'es devenu autrichien grâce à
cette
anecdote. C'est très drôle. C'est très, très drôle.
Non, mais en gros, voilà. Donc, t'as screenplay versus.
Du coup, je vois ça, ce compte Twitter, effectivement.
Tu vois ce compte Twitter,
on mettra en lien dans la description.
Ouais, ce compte Twitter démonte. Et genre, tu vois, il y a cette scène par exemple où il arrive. Heath Ledger, il arrive dans The Dark Knight. Il arrive. C'est quoi, il y a une sorte
je
de fête.
Ouais.
On n'invite pas le Joker.
J'ai du maquillage sur le visage.
Me fais chier à pas dormir.
Je peux avoir une lingette. Je la jetterai pas dans les toilettes.
Non, mais il arrive pendant une sorte de réception. Et c'est, tu vois tout ce qu'il rajoute par rapport au scénario, tu vois même ce qu'il enlève, ce qu'il modifie, et tu dis waouh, le mec est vraiment vraiment fort. Moi, il y a donc cette perf que j'avais retenu, et la deuxième c'était Jack Nicholson dans Shining, que je trouve excellent. Mais de toute façon, je me sens pas d'argumenter.
Non, mais crois
en
toi,
il n'y a pas besoin d'argumenter,
c'est
totalement
subjectif. Ouais, voilà.
Mais pour Heath Ledger, en plus, c'est d'autant plus un bon choix, au-delà de la performance artistique. Effectivement, par rapport à ce que tu dis, il y a des anecdotes de tournage qui sont folles. Le moment où il sort la tête de la voiture n'est pas du tout prévu. Je sais pas si pour après un pétage de plomb, pour les gens qui ont pas vu le film, en fait, il a un moment, il ouvre la fenêtre d'une bagnole dans laquelle il roule, et il laisse un peu sa tête au dehors dans le vent comme une sorte de chien. Donc ça, c'est pas prévu. Et encore plus fort, la scène où il fait exploser l'hôpital, c'est avec le petit device, en fait, dans le film, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas un gros spoiler, en fait, il appuie, ça explose pas, il continue d'appuyer, il comprend pas, du coup il se rebarre vers la camionnette, et là ça explose, il a le petit choc et il rentre dans la bagnole. L'explosion devait arriver au moment où il appuie sur le bouton. C'est juste qu'il y a une couille. Et il continue de jouer dans le personnage, le Joker, qui est là, qui fait bon. Et il reste dans le personnage tout du long, et ça donne un moment qui n'est pas prévu, dont tout le monde se souvient, parce que ça devient drôle, ça devient fort, ça devient contextuellement logique avec le personnage. Et c'est ce genre de performance, justement, je trouve, qui font que ça devient des grandes performances sur l'échelle d'un film. C'est que tu chopes des trucs.
Ouais.
Qui sont pas forcément prévus. Brando, par exemple, dans Apocalypse Now, le monologue qu'il a à un moment quand il fait Klimt, il improvise les trois quarts du monologue. Coppola devient fou, voit ça et se dit qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il raconte. Une fois que c'est fini, il garde parce qu'il se dit c'est incroyable ce qui vient de se passer, c'est pas prévu.
C'est comme dans Will Hunting, la scène où il y a Robin Williams.
Sur les proutes.
Exactement, qui parle des proutes. Exactement.
C'est vrai,
parle des proutes de sa femme et tout.
Bien sûr.
Full impro. Et d'ailleurs, tu peux voir le caméraman très légèrement qui se marre, en fait. Ouais.
C'est génial. Et donc, c'est un bon choix pour Heath Ledger.
Ouais, voilà. Très bon.
J'avais pensé aussi, en parlant
de Nicholson, évidemment, pour Shining.
Oui. J'avais pensé à Mrs. Doubtfire aussi.
Ah ouais, Robin Williams, c'est bien sûr. Ouais.
Mais voilà.
Mais c'était très dur de répondre à cette question.
Plus que dans Flubber. Il était mieux dans
Flubber. Ouais. Mais pour revenir à Robin Williams, qui est un acteur exemplaire, extraordinaire, et on oublie les superlatifs tellement il y en a. Il y a un film dans sa filmo qui est très peu cité et qui, pour moi, fait partie de ses peut-être trois meilleurs, qui est Le Monde selon Garp.
Garp.
qui est génial. Donc si vous aimez le cinéma,
mais ce film est génial.
Ce film est génial et tout est bien dedans.
Non, je confonds avec Jack. Je confonds avec Jack.
Dedo, c'est quoi pour toi la meilleure performance d'acting?
Alors encore une fois, c'était assez subjectif.
Bien sûr.
Il y a des évidences que tout le monde va citer, donc j'ai voulu aller vers quelque chose justement.
J'ai fait pareil que toi.
Bah ouais, parce que t'as envie de récompenser des gens qui sont pas forcément. Ouais,
vous avez tous les deux cité Virginie Efira du coup.
Et bah ouais, parce que vraiment 30 ans après, ça c'est dingue. Moi j'ai choisi Sylvester Stallone dans First Blood.
Stallone dans First Blood, bah
dans
oui.
Dans First Blood, putain, de Ted Kotcheff, un film de 82, que donc c'est l'apparition du personnage de John Rambo. Et les gens ne se rendent pas compte, je pense, à quel point cette performance est assez extraordinaire pour plusieurs raisons.
La VF.
Est-ce que juste
la VF aussi joue peut-être.
Est-ce que vrai. Juste avant d'entrer dans le détail pour les gens qui l'ont pas vu, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi parle le film sans le spoiler?
Ouais, c'est l'histoire d'un personnage qui revient du Vietnam, qui au départ déboule dans une ville pour aller voir un de ses potes qui apprend finalement en arrivant qu'il est mort. Donc ça le déstabilise parce que c'est déjà un des derniers avec qui il a encore des contacts. C'est un mec qui est très seul. Ça parle justement en sous-texte des gens qui sont revenus du Vietnam et qui n'ont pas été bien traités par les États-Unis, alors que c'était des héros de guerre, on les a un peu mis sur le côté. Et donc, il se retrouve à traîner un peu en ville avant de repartir. Et il a l'allure d'un vagabond pour l'époque, c'est-à-dire qu'il a un peu les cheveux longs. Tu vois le mec, tu le sens que c'est un.
Il a encore sa veste de militaire.
Il a un côté un peu malfrat pour la police locale, en tout cas, qui est incarné par un flic à un moment qui lui dit de se barrer de la ville. Lui, il comprend pas parce qu'il dit bah, je veux juste manger. Donc, et finalement, ça tourne mal, il l'amène au poste, ça part en. Je te mets des coups, bavure quoi. Policière totale, et du coup, il snap parce qu'à un moment, il revoit.
Ah, genre, il a pris son téléphone et.
Ouais, il fait un Snapchat.
Et il snap, quoi.
Et il est là, et du coup, ça fait le tour des réseaux sociaux, et voilà. À la fin, les flics vont en prison.
Putain.
Ce serait une belle fin.
Ça, c'est un beau conte, ça.
C'est un très beau conte. Mais non, en fait, le fait de se faire. De se reprendre des coups lui ramène des images mentales du Vietnam, et là, il devient fou, il met la ville à feu et à sang. Et puis ça se termine pas très bien pour lui.
Bah attends, on va pas raconter.
Et ça s'appelle First Blood parce qu'en gros c'est eux qui ont fait couler le premier sang.
Voilà, le premier sang.
Et qui ont réveillé le guerrier qui était en lui. Mais il a quand même un code de ça. Et la VF a contribué au succès, mais a contribué à la limite de la performance.
Complètement. Même si le travail du doubleur, dont j'ai oublié le nom, mais qui était un très grand nom de l'époque.
Mais il a un peu réduit ce que fait Stallone dans le film.
Ouais. Et donc le film déjà est un film brillant au-delà du procès qu'on a pu lui faire de simple film d'action, c'est absolument pas ça, il y a un vrai message politique derrière tout ça et ça a du sens par rapport, on disait recontextualiser en 82, ça a du sens. Et surtout au-delà de la performance physique de Stallone sur certaines scènes et du personnage qui est très bien incarné, il y a le monologue de fin quand le colonel Trotman, donc là,
pas trop de spoil,
mais je dis juste quand le colonel vient le voir, il y a un long monologue hyper touchant où il parle justement du fait qu'il n'arrive pas à s'intégrer à cette nouvelle vie et qu'on lui refuse cette intégration. Et il passe de la colère légitime du moment à raconter une histoire qui lui est arrivée au Vietnam et c'est touchant, comme j'ai rarement vu une performance d'acteur touchante.
T'avais un second choix, Dedo, il me semble. Avant d'y venir, juste peut-être Nico, peut-être tu m'as donné deux choix aussi.
Oui.
Si tu veux en partager un aussi pour équilibrer comme ça.
Alors, moi.
Le CSA préfère au niveau du temps de parole, après on a des problèmes. Si on...
Pareil, ça a été un peu dur. J'ai pas voulu tomber dans les trucs classiques, même si ça reste incroyable, parce que une fois que j'ai balayé De Niro, Pacino, etc.
Grand ménage.
Ouais, voilà, mais déjà rien qu'avec ces deux-là, on cite pas mal de films.
Bordeaux.
Et en fait, il m'est revenu quand même un film qui m'a marqué, bouleversé, et dont le destin de l'acteur m'a bouleversé aussi, parce que je pense qu'il aurait eu une carrière incroyable, c'est Brad Davis dans Midnight Express. C'est-à-dire que...
Putain, c'est marrant que t'aies dit ça.
Ah ouais.
Ah ouais.
Parce que donc dans Midnight
Express... Parce
que c'est un film en couleur, non? C'était étonnant.
Ouais, c'est un film en couleur. C'est un enfoiré.
Je veux dire, c'est un réalisateur qui est pas mort.
Ouais, il est pas mort.
Il est encore en vie.
Et il n'y a pas Ventura dedans.
Est-ce que tu peux pitcher le film un peu, Nico, s'il te plaît?
Alors, le film, en fait, c'est tiré d'une histoire vraie.
J'ai pas vu. Non plus.
D'un jeune Américain qui, en fait, après un voyage avec sa nana en Turquie, veut repartir avec énormément de hashish... dans sa veste, etc., pour ramener beaucoup de hashish aux États-Unis. sauf que ça va pas se passer trop comme ça, c'est-à-dire qu'il va se faire griller à l'aéroport.
Pas une super bonne idée déjà de base.
Pas super bonne idée. Déjà, c'était pas une bonne idée à l'époque et ça l'est pas encore aujourd'hui. Mais on parle aussi.
Non, mais je veux dire d'aller en Turquie déjà. Vas-y, enfin, il y a plein de destinations beaucoup mieux.
Ah bah ouais, 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 carrément. Mais surtout la Turquie de l'époque, parce que ça raconte aussi une Turquie de l'époque très totalitaire et très très dure. Et du coup, cet Américain se retrouve donc dans une prison turque pour trafic de drogue et il est condamné à une très très lourde peine. Et donc on suit son quotidien dans la prison, il passe par tellement de phases parce qu'on voit la dégradation du coup d'un jeune petit con un peu américain qui se retrouve d'un seul coup dans une prison turque et qui va devenir un autre homme en fait complètement, mais ça parle de plein de choses, ça parle d'amour, de sexualité, d'homosexualité, de qu'est-ce qu'on fait en fait de sa vie au quotidien avec ça et sa performance là-dedans elle est juste incroyable et j'ai regardé parce que je me suis dit bah, c'est sûr qu'il a dû avoir l'Oscar. Et en fait, non, il a eu le BAFTA, il a eu plein de prix en Angleterre.
Ça, c'est le BAFTA, c'est.
Ouais.
C'est
équivalent des. Ouais, c'est ça.
C'est pour les centres aérés.
Oui, exactement.
Ouais, le, oui, ouais, le, ouais, ouais, y a, ouais BAFTA, tu passes ton BAFTA et tu peux garder des comédiens.
C'est ça, bah, des enfants en général.
Ouais, voilà. Des enfants. Et en gros, ouais, voilà, donc Brad Davis, j'ai trouvé incroyable dans ce film.
Dedo, second choix.
Second choix, c'était, mais du coup je pense vraiment qu'elle a été oscarisée pour le rôle, mais ça n'enlève pas la performance, bien au contraire, c'est Kathy Bates dans Misery.
Mais oui, putain,
parce que parce qu'il y a tout quoi, c'est-à-dire que là, c'est toujours un peu plus simple quelque part de mettre en avant une performance qui s'apparente à la folie. Mais alors là, c'est fait avec tellement de subtilité, justement.
Ouais, exactement.
On est même si j'aime par exemple beaucoup la performance de Shelley Duvall, tu parlais de Shining, qui est beaucoup plus, pour le coup, outrancière et poussée à l'extrême physiquement. Là, avec Kathy Bates, on est vraiment sur un film. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc léger pitch sans spoiler.
On l'avait cité dans le meilleur monstre au cinéma.
Ouais.
Ouais, super.
Et elle a pas gagné, mais
c'était plus son personnage du coup que là la performance, mais bien effectivement.
Sûr, ouais. Et donc c'est un écrivain à succès qui se retrouve à avoir une sorte d'accident à un moment de voiture et il se retrouve dans la maison d'une femme qui ne sait pas trop qui c'est mais apparemment qui a l'air très très fanatique de ses œuvres, en particulier de son personnage littéraire qui est donc Misery. Et elle ne veut pas que ça s'arrête, lui il veut arrêter parce qu'il veut passer à autre chose et elle dit non, faut pas... Là, pour l'instant, je vais appeler ton agent, tout le monde, le temps que tu te remettes, parce qu'il a, il peut plus bouger, il a un problème de jambe, elle est infirmière. Donc elle lui dit, mais t'inquiète pas, ils viendront bientôt et tout, mais là, faut que tu bosses. En fait, elle veut pas vraiment, elle a appelé personne, hein. Cette personne est juste un peu folle. Mmh. Elle est très attachée à ce personnage-là, elle veut à tout prix que justement, il continue de la faire exister. Et tu vois justement les changements que peuvent avoir ce genre de personnalité dans très... Au départ, elle est très admirative de son travail, donc elle est très gentille.
Tu sais pas trop comment te positionner dessus.
Tu sais jamais trop. Elle oscille régulièrement. C'est pour ça que justement, elle traduit très bien.
Elle est touchante malgré tout.
Elle est touchante parce que tu sens juste que c'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, mais qui est seul et qui retrouve dans ce personnage littéraire sa seule porte de sortie vers quelque chose, un monde extérieur. Donc si ça s'arrête, tout s'arrête dans sa vie. Donc tu comprends mieux, malgré le fait qu'elle soit tarée, qu'elle refuse par tous les moyens de le laisser tranquille et qu'elle veut justement qu'il aille au bout de ce roman.
En quelque sorte, elle lui crée une prison pour l'obliger à lui créer sa propre évasion.
Oh, mais vous êtes un poète maudit.
Oui.
Oh oui, c'est vrai. Et donc oui, tu la vois régulièrement aussi en différents états qui vont de justement la gentillesse, l'admiration à la vraie folie. Ça peut aller très vite en fait. Mmh. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est ça qui fait peur.
Ces changements de comportement et de coups de colère qui peuvent arriver de n'importe où. Et c'est très bien traduit par James Caan en face.
Ouais.
Tu sens vraiment qu'il est flippé parce qu'il se dit là, elle peut me buter n'importe quand.
Nico, ton deuxième choix sur la meilleure performance d'acting, c'est lequel?
Alors c'est là où vraiment vous allez vous foutre de ma gueule sur l'âge potentiel que je pourrais avoir. Mais c'est marrant parce que ça fait une belle transition. Ça fait une belle transition avec Kathy Bates et Misery.
C'est les frères Lumière en fait.
C'est Betty Davis dans Whatever Happened to Baby Jane.
Ah, super choix.
Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Et c'est très proche parce que dans Misery, donc c'est une fangirl qui séquestre son romancier favori. Là, c'est l'histoire de deux sœurs. L'une a été une enfant star, donc Baby Jane, Betty Davis. Et l'autre a été aussi une actrice qui a eu des choses. Et je crois qu'elle est actrice aussi, sa sœur... Et en gros, on suit, c'est plus ou moins en huis clos, ça se passe dans cette maison qui est triste, qui vit dans le souvenir, dans la nostalgie de ce qu'a été la gloire de Baby Jane, etc. Et on sent que Bette Davis, elle a commencé à rentrer dans une sorte de psychose, une jalousie maladive de ce qui peut arriver à sa sœur, etc. Sa sœur est dans une petite chaise. Et donc Baby Jane passe son temps à s'occuper de sa sœur et elle en peut plus parce qu'elle a l'impression d'être prisonnière en fait du handicap de sa sœur, etc. Mais on va comprendre que cet handicap, elle l'a pas pour rien et que Baby Jane en est responsable, etc. Et donc c'est un thriller psychologique quasiment huis clos. Il y a qu'une scène finale qui se passe sur une plage et tout. Je m'en rappelle plus. Peut-être tu vas pouvoir m'aider, Dedo, le metteur en scène de ce film. Mais c'est un très très grand film noir, très flippant. La mise en scène, tu vois, on parlait tout à l'heure des vieux films ou des anciens films. Si on oublie le côté noir et blanc, la mise en scène de ce film.
Robert Aldrich, réalisateur.
Ah, c'est Aldrich, voilà.
Et oui.
La mise en scène de ce film. Non, mais la mise en scène de ce film, si on le mettait en couleur, on trouverait ça éminemment moderne parce que c'est incroyable. Il y a un côté très Hitchcockien de toute façon dans la manière de faire monter la tension, la pression et surtout la psychologie en fait de ce personnage et la performance qu'elle fait. Justement, c'est pas à l'ancienne. C'est là, on est dans des performances proches de ce que pourrait faire une actrice d'aujourd'hui.
Ouais. C'est pas théâtralisé en fait.
Non. Et Bette Davis, en plus, il y a une mini mise en abîme parce que Bette Davis, c'est une actrice qui a eu un parcours très particulier, un petit peu chaotique. Il y a eu des phases où elle a été un petit peu boycottée d'Hollywood et tout parce qu'elle avait une personnalité très forte et elle était assez libre dans sa pensée.
Elle tombait dans l'alcool, non ?
Ouais, et puis du coup, elle était dans les extrêmes et c'est une très 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 grande actrice et c'est un très grand personnage.
Tom, c'est quoi toi, ton choix ?
Alors j'ai des références un peu plus modernes parce qu'effectivement Cyrus l'a dit un peu au début. Je pense qu'on est un peu moins
la notion de modernité. Tu veux dire contemporaine peut-être.
Tu veux dire Avengers l'ère d'Ultron.
Ouais, par exemple.
Bon choix.
Et non, c'est vrai que du coup, bon, on l'a dit, hein, c'est un domaine sur lequel Cyrus et moi on est un peu moins experts et connaisseurs que vous. Donc c'est vrai que c'est des références peut-être un peu plus modernes. Quoi.
Mainstream,
oui aussi.
Le mainstream.
Alors,
ouais, bien sûr.
Dans mes mentions spéciales, c'est-à-dire pas forcément celles que j'ai considérées comme la meilleure, mais sur lesquelles j'ai hésité, j'aimerais juste.
Oh, il a fait des mentions spéciales.
Oui, j'ai fait une pré-liste de nommés à qui j'ai envoyé une petite lettre en leur disant vous serez peut-être mon choix.
Merci.
Pressé de participer peut-être un jour au festival de Tom. Ça a l'air super.
J'ai voulu nommer Dustin Hoffman dans Rain Man.
Ouais, bien sûr.
Qui m'avait, voilà, quand je l'ai maté, j'étais assez petit et j'ai fait waouh. Enfin, le mec, il est vraiment comme ça en fait, il joue pas un rôle. Et je trouve assez ouf. Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Ouais. Oui, je fais
facile.
Dire
aussi, Jim Carrey dans Truman Show.
Ouais.
Qui, c'est dingue, ça perf. Ouais. DiCaprio dans Loup de Wall Street.
Ouais.
Qui m'avait
retourné. Ah oui, s'il fallait en citer 6.
Non, mais voilà.
Ouais,
c'est
ça.
Mais c'est marrant.
On a parlé beaucoup de vieux acteurs. C'est pour,
donc DiCaprio, tu dis le Loup de Wall Street.
Ouais, c'est marrant, j'aurais pas dit celui-là. Moi,
ouais, moi j'aurais pas dit celui-là. Plus fort que dans The Revenant, par exemple.
Moi, j'aurais dit Basketball Diaries.
Ah ouais, bah moi, tu vois, j'aurais dit Gilbert Grape. Comme quoi, on est tous.
Ok, je l'ai pas vu.
Mais c'est des bons choix aussi. De toute façon, DiCaprio, et je viens de m'en rendre compte, en fait, tout à l'heure, on disait. Je crois que quand t'es un acteur hollywoodien. Et que ton nom se termine en O, il y a des chances que tu deviennes un des meilleurs de ta génération.
C'est vrai.
Pacino, De Niro, Brando.
Ah, c'est les Italiens.
DiCaprio.
Brad Pitt.
Brad Pitt, c'est un très bon acteur. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le plus grand de sa génération. Pour moi, DiCaprio est. Oui. Après, tout ça est très subjectif.
Mais c'est vrai que
DiCaprio est plus.
Les Italiens sont forts en. Les Italiens
Danny
sont
Glovero,
forts en acting. Hein.
C'est vrai.
Danny Glover, très bien, très bon choix, effectivement. Ouais.
Tous très forts.
Mais alors, ça, pour le coup, j'ai une théorie là-dessus, mais ça peut être un peu dangereux.
Danny Glover qui est pas un bon acteur.
Non, sur les Italiens. Que les Italiens soient bons en comédie, déjà parce que c'est quasiment les précurseurs de la comédie.
Comédia dell'arte.
Du rapport au masque et tout. Et je trouve qu'il y a dans leur manière de parler, même au naturel,
ouais,
quelque chose
physique.
Qui est déjà
ouais.
extérieur à
bien
ce qu'ils
sûr.
Sont.
Ouais.
Et qui est un peu en représentation. Et quelque chose qui est plus grand que la réalité déjà quand ils parlent. Et les Américains ont ça. C'est pour ça, les Américains et les Italiens, quand ça fait les deux, c'est ce qui est le cas pour ceux qu'on a cités. Il y a déjà quelque chose qui est cinématographique juste quand il parle dans la vie, quoi.
Non, c'est vrai.
Mmh. C'est vrai.
C'est une bonne théorie, dis donc.
Oui.
Mais en quoi c'est dangereux, par contre ?
Bah, parce que ça peut être un peu raciste de penser que,
une
origine détermine un talent.
Ah oui, non, mais c'est pas ça. Là, tu dis pas que c'est parce qu'ils sont italiens qu'ils sont meilleurs que les autres. Tu traduis un comportement qui fait que peut-être.
Je dis que dans leur culture.
Essaye de te sauver la peau pour pas que tu termines.
L'émission n'est pas diffusée sur Twitter.
Ouais, ça va, c'est
pas. Non, mais dans leur culture, tu vois, t'as très peu d'italiens qui parlent pas avec les mains. Donc il y a déjà un rapport à la communication.
Souvent ils parlent avec la bouche en plus.
Sauf les Italiens sourds, ils parlent beaucoup avec les mains quand même.
Ça arrive un peu plus. Ça veut dire eux, ils doivent vraiment faire des très grands gestes.
Ouais.
T'imagines
les malentendants, les malentendants italiens doivent vraiment avoir des épaules, mon gars. Évidemment. Enfin non, ils font pas, mais évidemment, du coup.
C'est ça.
Les mimes italiens, elles doivent être relous.
Un time's up avec
calme
les
toi,
Italiens.
Calme-toi, putain. Oh là là.
Dans les acteurs actrices que je voulais nommer, je voulais parler aussi de Frances McDormand.
Ouais.
Qui a été oscarisé deux fois. Ouais. Une fois pour Phoebe Bourne, et moi c'est plus dans Fargo. Ouais.
Fargo, pardon.
Dans
ouais.
Fargo.
J'ai dit Cargo.
Ça, c'est une chanson d'Axel Bauer.
Ouais. Cargo de nuit.
De... C'est un film
Fargo de nuit.
De Fargo de nuit.
Donc, du coup, finalement, j'ai décidé. Alors, c'est pareil, hein, c'est très subjectif, et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'acteurs que j'aimais bien et des perfs qui m'ont marqué. Et je me suis dit, en fait, celle que je vais choisir, c'est la première fois où j'ai maté un film, et je me suis rendu compte de en fait, que derrière un personnage, il y avait une personne. Et je me suis dit, ok, en fait, le travail est ouf, et t'es trop fort. Et du coup, j'ai choisi de parler de Jamie Foxx pour le film Ray, biopic sur Ray Charles, qui m'avait vraiment mis une claque sur le moment. Et en termes de perf, le mec fait tout dans le film.
Ouais, c'est ouf.
Le film est hyper bien et du coup, passe vraiment par tous les états. Ça raconte du coup l'histoire de Ray Charles. Et t'as le jeune premier qui est hyper talentueux, t'as la dépression, t'as les scènes de liesse, de stress au milieu.
La drogue.
Il chante, il joue, enfin, il danse. Il
c'est marrant, j'ai pas aimé moi.
Il est fou quoi.
Mais j'ai pas démassé.
Je suis fan de
film.
Ray Charles, okay. Mais.
J'ai pas démassé le film, mais j'ai salué quand même sa performance. Mmh. Parce qu'il y a des moments, comme tu dis putain, je vois Ray Charles.
Ouais.
Mais le film, j'ai trouvé très très linéaire.
Est-ce que tu vois Ray Charles?
C'est peut-être le film que j'ai pas aimé, ça.
Est-ce que tu vois Ray Charles dans la composition ou dans le mimétisme? C'est pas la même chose.
C'est un peu les deux. Mais dans les biopics, c'est un exercice particulier, le biopic. Ouais. Limite, j'aime bien les films où ils s'en foutent complètement de savoir s'il y a une ressemblance.
On parlait de Carpenter rapidement tout à l'heure, mais Carpenter a fait au début de sa carrière un biopic sur Elvis. Qui s'appelle Elvis.
Ah ouais.
Et le comédien qui incarne Elvis, c'était Kurt Russell. Et lui ressemble
j'ai entendu
pas
parler de ça.
Du tout. Donc au départ, c'était vraiment. Et en fait, il a été tellement bluffant que Carpenter a dit mais c'est Elvis, on s'en fout en fait de son physique. Et effectivement, t'oublies complètement qu'il ressemble pas à Elvis, c'est Elvis.
On va se faire un bébé jeu, petit jeu pour finir. Ça va être un petit battle entre vous trois. Je vais vous filer un nom d'acteur. Et vous avez à tour de rôle devoir me dire un film dans lequel il joue.
Ah putain, ouais. Wow. Et si tu trouves pas,
qu'il y en a un
éliminé.
Qui est plus, c'est éliminé.
Yes,
c'est un point pour celui qui a.
À chaque fois dans ces trucs-là, je suis là, mais évidemment.
Ouais, je palpite.
Vous êtes chaud.
Allez.
Je vous propose
Pardon, excuse-moi. Dans quel ordre?
Vas-y, laisse-moi commencer, s'il te plaît.
Ok.
T'as le droit de commencer.
Ouais, normal. Yes. Bah après, on fait dans l'ordre dans le sens des aiguilles d'une montre.
Mmh. Exactement.
Ceux qui n'ont pas de montre, c'est de droite à gauche.
Et
de gauche à droite.
On va partir évidemment sur des acteurs un peu mainstream. Je vous propose de commencer avec ce bon vieux Brad Pitt.
Fight Club.
Ocean's 11.
True Romance.
Rencontre avec Joe Black.
Ocean's 12.
Ça marche.
Ocean's 13.
Ah, bien vu.
Le film qui sort avec Tarantino là.
Non, ça y a pas ça.
Quoi?
Non mais dis-nous un autre film,
ouais.
Cyrus.
Un film
qui en a assez.
Film.
Ok. Et ben, Mister et Mrs. Smith.
Yes.
Ouais. True Romance ça a été dit.
Ouais.
California.
Légende d'automne.
Putain. Ouais, il est chaud.
et ben, voilà.
Seven.
Snatch. Ah oui. Putain. Ah oh, putain.
L'armée des 12 singes.
Ah, bâtard. Benjamin Button.
Yes.
Slippers.
After Reading. Burn After Reading.
Yes.
Ah, pas mal.
Bien vu.
Dedo, ça va être 3 secondes maintenant.
Ah putain. Attends, je cherche des looks.
3, 2, 1. C'est terminé. C'est un point pour Nicolas.
Ah putain.
Vas-y, dis-en d'autres.
Entretien avec un vampire.
The Big Short. World War Z. 12 Years a Slave. Inglourious Basterds.
Ah putain, le stratège.
Babel. 3.
Ah, Babel, génial. Ah ouais, oui. Troy. Putain, mais il y en a 1000 à chaque fois. T'es là.
Il y en a 1000. 7 ans au Tibet.
7 Years in Tibet.
J'avais adoré ce film.
Le dîner de con. Enfin, beaucoup quoi.
Ok.
Ok, on continue.
Il est dans le remake pour de vrai?
Non.
Pas du tout.
Je l'ai pas vu. Non, mais dans le remake, il aurait pu avoir un rôle.
C'est vrai.
Le rôle de l'ermite, tu vois.
Ah ouais, non, c'est pas lui.
Je vous propose de me donner. À tour de rôle.
10 euros.
S'il vous plaît. Ou alors.
Voilà pourquoi.
Il l'a donné en premier.
Ou alors un film réalisé par Steven Spielberg.
Alors tu commences.
Ah, attends, parce que t'as dit ou alors. C'était quoi le premier truc?
Les 10 euros.
Ouais, bah, ah, ouais. J'ai des films sur Spielberg. Ouais.
Films sur Spielberg, Sirius, tu commences?
E.T.
Duel.
Les Dents de la Mer.
Jurassic Park.
Rencontre du troisième type.
La liste de Schindler.
La guerre des mondes.
Amistad.
La couleur pourpre.
Ready Player One.
Ouh, il y a du niveau.
Indiana Jones et la dernière croisade.
Ok. Oh putain.
Il y en a mille, mais après t'es là, tu dis attends, attends.
C'est horrible. Voilà. AI.
Oui.
Indiana Jones et le Temple Maudit.
Bien. Indiana Jones et c'est quoi le nom du premier? Le premier Indiana Jones. L'Arche Perdue.
Oui, Aventurier de l'Arche Perdue.
Aventurier de l'Arche Perdue.
Ready Player One.
Déjà dit, c'est sorti.
Allez, ciao mon pote.
Ciao Nico.
Ah, je sors sur Spielberg.
Sirius.
Ouais.
Il y a quand même un indice sur le torse d'une des personnes dans cette pièce.
Mais il a été dit.
Ah, ouais, il a été dit. Pardon, je suis désolé.
Ah bon,
autant pour moi.
Ouais, ouais, il a été dit.
Enfin, c'est con, t'aurais rien dit, il l'aurait dit.
Ouais.
Et du coup, ouais. L'un des deux gagnait.
Attends, j'en avais un là. J'en avais
3,
un.
3.
Attends.
2. 1.
1943.
Mais ah, la liste de Schindler. La liste de Schindler.
Il y en a 50.
Mais avec la pression, des fois, t'es là, tu fais.
Je cherchais celui. Je cherchais celui qui se passe dans un.
Hook, c'est Spielberg.
Dans un avion, mais où ça bascule en fantastique là.
Ah, mais ça, c'est. Oui, un des segments. Bah, c'est le Twilight Zone.
Ah non, ah
oui, ok, vas-y, la
ouais.
On avait le terminal, arrête-moi si tu peux, Minority Report, etc.
Tintin.
Et ouais. Je vous propose de terminer sur le mec aime la thune, sur Johnny Depp.
Ok, oh, c'est ses films.
Les films
qu'il a fait ?
Non, les films qu'il a, dans lesquels il joue.
Ah oui,
vas-y, Cyrus, c'est parti.
Ah bah, de toute façon, il y en a qu'un, c'est The Brave qu'il a réalisé. Donc.
Pirates des Caraïbes, 1.
Alors, je propose qu'on les fasse juste Pirates des Caraïbes en une fois.
Ok, Pirates des Caraïbes.
Ah, donc on n'a plus le droit de dire Pirates des Caraïbes. Ok, c'est normal. Ed Wood.
Edouard Main d'Argent.
Le truc avec Stranger.
Le truc avec Stranger. Voilà, même moi. Ah, attends. Non, je l'ai pas.
Sérieux, il faut faire un effort là.
Non, mais vous le voyez ou pas? Vous voyez ce
film?
Non.
Non.
C'est trop pas clair. Oui,
allez, remets Teasy, s'il te plaît.
Si, vous voyez, tu vois.
Pense au film de Burton, je
Stranger.
Sais pas.
Stranger. Ça vous dit rien, ce truc?
Non.
Après, c'est peut-être un film qu'il avait fait à 13 ans et on connaît pas.
Ok, attends, je trouve autre chose.
J'essaie de pratiquer l'hypnose.
Je pense à des looks aussi, j'essaie de trouver des looks.
Ah bah oui, là, tu peux y aller.
Charlie et la chocolaterie.
Ouais.
Gilbert Grape.
Cry Baby.
Ouais.
L'histoire du chevalier sans tête.
Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow.
Ça marche.
On lui accorde. La 9e porte.
Intrusion.
C'était nul.
Oui.
Ouais. Pas ouf.
Stranger.
Bon, allez, dégage.
Allez, c'est fini.
Est-ce que tu voulais dire The Lone Ranger?
Oui.
Non, qui est horrible ce film.
Mais il joue dans The Brave d'ailleurs. T'as cité The Brave, mais il joue dedans.
Il joue dedans.
In Hell.
Ah, très bon choix. Donjon des Marcos.
Benny and June.
Bien. Alors, j'ai le titre anglais. C'est Nick of Time. Je sais plus comment ça s'appelle en français.
Neverland.
Oui. Nick of Time, c'est Meurtre en suspens.
Meurtre en suspens.
Wow.
Tout à fait.
Neverland, c'est bon.
Donnie Brasco.
Donnie Brasco, c'est bon.
Blow.
C'est bon, tout
culé, bien vu. Alice au pays des merveilles.
Yes.
Le truc là avec Michel Pfeiffer, pareil, Tim Burton.
On va lancer le décompte, Nico.
Non, dis pas ça. Fais pas
5.
Le Before Night Falls.
Non.
Avant
il,
la nuit.
Il
un
est
truc
pas
qui se passe à Cuba avec Javier Bardem. Il fait un transgenre dans une prison.
Ah putain, peut-être.
Avant la nuit, tu dis le film ?
Ouais, avec Javier Bardem.
C'est bon.
Eh bien, Dark Shadows.
C'est bon toujours.
C'est celui-là que je cherchais.
Putain, ils sont bons, hein ?
Ouais. 5, 4...
Ah, j'en ai un autre, c'est bon.
3, 2...
Ah, vas-y, nique.
Ah, c'est fini. Dedo pour la gloire.
Las Vegas Parano.
Bien joué. Ah, mais oui, putain, comment j'ai pas pu le dire.
Bien joué,
ah,
c'est deux points pour Dedo. Bah, t'es monsieur cinéma. Tu remplaces Pierre Tchernia. C'est toi qui le remplaces.
J'ai perdu sur Spielberg.
On avait quoi? On avait Arizona Dream.
Arizona Dream.
Les Griffes de la Nuit, le premier.
Ah, mais oui, oui.
Ah, oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit vite fait? Le chocolat. On n'a pas dit.
Chocolat de Lasse Armstrong.
Oh là là, oui.
Ouais. Les Noces Funèbres.
Ouais.
L'Imaginaire du Docteur Parnassus.
C'est lequel aussi, le Burton ou la comédie musicale?
Sweeney Todd.
Sweeney Todd.
J'ai hésité, je savais pas s'il était dedans.
Ah si, si, c'est le rôle principal.
Ah ouais, mais je crois que c'était Ray Winstone.
Non.
Chers amis, c'est le moment de passer au vote final sur la meilleure performance d'acteur. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de films qu'on n'a pas vus mutuellement, etc. L'idée c'est...
Moi je suis éliminé direct.
Déjà de manière hyper synthétique, chacun donne un seul choix au lieu de deux, parce que là on en a sorti deux.
Mais ouais, c'est parce qu'on a déjà fait. C'est quoi la
finale?
Non.
Si, mais on fait un vote. À la fin, ouais, on fait un vote pour vraiment qu'il y en ait qu'un seul et qu'il y ait le gagnant.
Ah, sur ce qu'on a tous dit.
Ouais.
Sur nos meilleurs choix.
Ah. Ouais, mais moi
donc
j'ai
toi, c'était Stallone et Kathy Bates.
Ouais.
Nico,
tu gardes qui?
Tu gardes qui?
Bah Stallone, parce que Kathy Bates elle a déjà gagné l'Oscar et Stallone jamais. Donc Stallone.
C'est faire.
Bah moi stratégiquement je vais garder celui qui est le plus récent des deux, mais j'ai perdu, je le sais, Brad Davis dans Midnight Express du coup.
Ça marche. Moi je prends, je garde Heath Ledger.
Et moi je reste sur Jamie Foxx.
Ça marche.
C'est le moment où il faut se positionner.
Ouais.
Je rentre dans le premier.
Moi je rentre en deux alors.
Si c'est pas Jamie Foxx, je vote pour Kathy Bates.
Ouais, mais tu l'as pas dit dans tes choix.
Dans le deuxième, mais voilà, j'ai le droit, c'est notre podcast si j'ai envie de le dire.
Bien joué.
Moi je mettrais je mettrai de côté les gens qui ont déjà eu l'Oscar. Donc je mettrai de côté Heath Ledger, même s'il a été posthume déjà. Je le mettrai pas dedans.
Ok.
Mais du coup, tu dis que.
C'est le vengeur masqué des acteurs.
Déjà, je dirais celui-là. Moi, du coup, j'aurais tendance à prendre le petit Martin, parce que justement, il a pas eu la carrière qu'il méritait, alors que Stallone, ça se passe quand même bien. Donc je pense que j'irai plus vers cette perf dans Midnight Express.
Ok.
Ok, donc Brad Davis alors. Eh ben,
ah oui, pourquoi je dis Martin?
Je sais pas. Bah, moi, parce que forcément c'est subjectif et tout, mais c'est pas parce qu'il l'a fait, mais je voulais dire Stallone dans First Blood.
Ok. Cyrus?
Ok, bah nous c'est délicat parce qu'on n'a pas vu les films dont vous parlez.
Mm-hmm.
Je trouve que Kathy Bates dans Misery, elle est très forte, mais pour moi elle mérite pas le titre de meilleure performance d'acteur, ni Jamie Foxx.
D'actrice, ouais.
D'actrice. Ni Jamie Foxx. J'ai pas vu
les deux autres,
Midnight Express, mais par contre je connais Stallone.
C'est vraiment par élimination.
Ouais,
je le connais parce que sur son compte Twitter.
Ouais.
Un jour.
Parce que vraiment. Ouais.
Donc moi si je devais voter pour deux personnes, enfin mes deux choix ce serait Heath Ledger et Stallone. Tu vois.
Ok. Donc ça voudrait dire que c'est Stallone qui remporte cette émission.
Bah j'ai l'impression.
Et oui, et du coup c'est carton plein pour Dedo.
Bah oui, enfin non, c'est plus pour carton plein pour
Dedo.
Stallone.
Pour Magic Dedo Tchernia quoi.
Si je peux conclure rapidement, on parlait de performance d'acteur et là du coup on est en plein dedans dans l'actualité totale. J'ai vu Us hier, le nouveau film de Jordan Peele.
Pas vraiment parce que le podcast est diffusé en 2028.
Ah bon bah tant pis alors, bah, ça sera c'est
vieux
ça.
Film.
Peut-être que Us est devenu un classique. Donc du coup la performance de Lupita Nyong'o, l'actrice principale, est bluffante. Elle
chips.
Est incroyable chips. Et le film est très bon.
Je t'ai chipsé.
Tu m'as chipsé?
Ouais.
Bon bah elle est vraiment tétanisante.
Aucun respect du
chips. Tiens.
T'as pas respecté le chips?
Non. Parce que j'aime pas les féculents.
Okay.
Ouais.
Mais déjà bravo à Stallone.
Bravo à Stallone. Bah, on peut l'applaudir qui remporte la performance de meilleur acteur.
Et de toute façon,
allez voir du coup si vous avez pas vu First Blood, ouais, Rambo 1.
Et quand même Stallone, on peut dire ce qu'on veut, on l'aime pas, machin et tout. Et c'est le seul dans l'histoire du cinéma à avoir eu trois franchises
ouais,
de personnages qu'il a créé. Rocky, Rambo et The Expendables. Juste à partir de là,
voilà.
Quand même pas mal.
C'est pas mal.
Propre. Tom, alors attends, déjà nos invités, où est-ce qu'on vous retrouve?
Nos invités.
Dedo, où est-ce qu'on te retrouve?
Dans plein. J'ai un projet musical qui s'appelle Les Princesses Leia, qui est à la fois. Qui a l'équilibre entre le théâtre, le vrai concert live et la comédie musicale. Donc c'est une sorte de gros spectacle un peu fourre-tout, un gros barnum un peu bordélique, mais marrant, les gens sont contents.
Et
on est en tournée. Merci beaucoup, Nicolas Bernard. on est en tournée avec le Warm Up Hellfest, qui est une tournée itinérante pré-Hellfest pour les gens qui n'ont pas pu forcément y aller. Donc, on fait 16 villes différentes du 16 au 30 avril avec le projet. On sera aussi.
Les infos, on peut les trouver où?
On peut les trouver sur le site du Hellfest ou bien sur mes réseaux sociaux personnels, qui sont mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram. Je poste régulièrement des choses.
Tout ça sera en description.
Il s'appelle comment pour les gens qui ont
le groupe s'appelle Princesse Leia.
Non,
tes réseaux.
Ah, mes réseaux c'est-à-dire.
Ton compte.
Dedo Dante.
Ah, c'est Dedo Dante. D-E-D-O-D-A-N-T-E.
Ça marche.
Voilà. Et j'ai sorti une BD aussi chez Delcourt qui s'appelle White Spirit, qui est une BD de genre, qui est du fantastique avec de l'humour noir à l'intérieur. Voilà. Okay. Mon petit hommage très humble au compte de la crypte pour ceux qui, à qui ça peut parler.
Et pas le compte Twitter de la crypte.
Hein. Non, rien à voir. Et j'ai fait la captation de mon deuxième spectacle qui devrait être bientôt disponible. Je ne sais pas encore sous quel format et sur quel support. Et je vais commencer à roder mon nouveau spectacle d'ici la fin de l'année.
J'en mets.
Voilà.
J'ai un peu tout dit, je
crois. Une actu débordante. Comme ouais.
On essaye.
Des dordantes.
Des dordantes.
Oh. Eh ben tout se passait bien jusque là. C'est la dernière fois que je participe à ce podcast. Adieu.
Et toi, Nico?
Moi, c'est moins débordant pour l'instant, en ce moment, en tout cas. Mais j'ai sorti il y a pas très très longtemps Papillon, donc un court-métrage que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Je suis en préparation d'un autre un petit peu plus fat qui sortira en septembre. Donc, faudra être un petit peu patient. De l'écriture, je vais faire un passage en comedy club au Comedian Chill, mais j'ai pas encore les dates, faut que je leur dise en fait. Ce sera en avril, donc je vais faire un petit passage de 5 minutes.
Et pareil, on peut te suivre sur tes réseaux.
Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, Insta, Twitter, Facebook, tout. C'est Nicolas Bernard.
On mettra le court-métrage aussi en description.
En lien, bien sûr.
Bah cool, ouais, carrément. Et puis voilà, et pour l'instant, c'est tout.
Et moi, si je peux me permettre une dernière aparté, on a fait 5 nouveaux épisodes avec Yacine Bellous d'un programme court qu'on a créé il y a une dizaine d'années maintenant qui s'appelle L'histoire racontée par des chaussettes. Et je suis bientôt en montage des épisodes qu'on a fini de tourner et ils seront disponibles, avril-mai. Voilà, okay. 5 nouveaux épisodes.
Et donc, en avril-mai, vous aurez des épisodes dans lesquels j'ai fait des voix de l'histoire racontée par des
chaussettes. J'allais y venir, voilà. Nicolas Bernot sans faire trop de spoilers, a interprété avec beaucoup de justesse et d'ironie le personnage de Jules César, sans trop en dire. Bien.
Top. Voilà. Et je voulais juste une dernière recommandation aussi, parler d'une série dans laquelle vous jouez tous les deux, qui est faite par Yacine Bellous, qui s'appelle Le Trône des Frogs.
Ah, c'est gentil.
Qui est une série parodique de Game of Thrones.
Complètement.
Et de The Office un peu.
Ouais, dans l'esprit mockumentary un peu.
Mockumentary, ouais, c'est ça.
Voilà. Et voilà, qui est super. Et voilà, je vais recommander aux gens de la mater, c'est très très marrant.
Bah, allez la mater, je sais super. Pas si elle est encore disponible.
C'est disponible
elle
sur YouTube.
Elle est sur YouTube de Golden Moustache, je crois.
C'est sûr,
YouTube,
parce que parfois ils suppriment des trucs.
Non, je pense que là, c'est pas. Ça s'appelle Le Trône des Frogs, effectivement, il y a deux saisons.
Voilà.
Avec Baptiste Le Caplain et Aude Gonigoubert.
Exactement, qui sont les autres personnages principaux, puis pas mal de guests. On y voit Bérangère Krief, Simon Astier,
Romain Lancry,
Pierre Cross, pas mal de gens, effectivement. Ouais. On est très content de cette série.
On s'est bien marré à la faire.
Et les gens me demandent souvent est-ce qu'il y aura une saison 3. Si t'as 100 000 balles, avec plaisir. Mais on espère qu'une production voudra bien.
Ouais, ce serait cool.
Je sais que Yacine a encore beaucoup d'idées et qu'on adore. On a vraiment adoré jouer ces personnages. Et si on pouvait les prolonger un petit peu dans cet espace, ce serait cool.
On peut parler de l'actualité de Johnny Depp qui sera donc dans le film de Cyrus North, Strange Her.
Ouais. Qui sera le remake du coup, parce que le remake de cet incroyable classique pour ceux qui ont justement suivi la conversation depuis le début.
On se quitte en chanson ?
Avec plaisir.
3, 4,
Simply the best. Down, 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 down.
Allez, Doors.
Si vous écoutez encore, c'est que vous avez peut-être bien aimé ce podcast, alors merci.
Ouais, merci beaucoup, et pour nous aider à le faire connaître et à le faire grandir, vous pouvez faire plusieurs trucs.
Alors déjà, vous abonnez au meilleur podcast sur vos applis de podcast. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois podcast.
Il y a un autre truc important, c'est le noter 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast.
Ouais, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement et pour le faire découvrir à d'autres personnes.
Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun épisode, les liens sont en description.
Et au passage, on remercie Nouvelles Écoutes qui a coproduit cet épisode.
À jeudi.
À jeudi prochain.
Simply the best. Tain, 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 tain.